D'accord. Donc, ce que je me propose, mais on pourra prendre la question par un autre bout tout à l'heure s'il y a des questions, c'est de vous présenter, me refaire la France, pas du tout dans l'ordre où il est, c'est-à-dire dans l'ordre du livre, en vous présentant successivement les différentes parties, les différents chapitres, mais en le prenant pratiquement à l'envers, ou plutôt en vous expliquant un petit peu comment il a été écrit. Et quel modèle d'organisation cela implique. Alors, ceux qui me connaissent un peu savent peut-être que je suis extrêmement préoccupé, extrêmement intéressé, en tout cas, par les questions d'organisation. D'ailleurs, c'était ma fonction à égalité et réconciliation. J'étais censé être sympathique, inventé par Marc Georges, secrétaire national à l'organisation, ensuite à la formation. Mais donc, tout ça pour dire, enfin, que tout. Clairement, que les questions d'organisation m'intéressent. Je ne sépare pas du tout les questions d'organisation et de formation, et je ne sépare absolument pas les questions d'organisation et de formation des questions proprement politiques. Alors, en fait, pour comprendre où je veux en venir, il faudrait refaire la France plutôt par la fin, où ces questions sont abordées. À savoir les paragraphes 383 et 384. Alors, je ne sais pas si vous avez lu le livre. Si ce n'est pas le cas, donc je me permets de vous lire simplement ces paragraphes pour vous les expliquer, si je puis me permettre, et puis pour vous expliquer à partir de là aussi l'esprit général de l'écriture de Refaire la France et de l'organisation qui est en quelque sorte c'est dans Refaire la France. Alors, dans le paragraphe 383, qui renvoie lui-même au tout début du livre, donc page 176 pour ceux qui ont le lu par hasard le livre sous les yeux, c'est l'individu, comme on l'a vu, est intérieurement affaibli, voire décomposé par la déliquescence du corps social auquel il appartient. Sans la construction d'un instrument collectif de combat, il ne peut pas remédier à cette déliquescence. Mais on pourrait dire aussi qu'il n'a pas en lui-même les ressources intérieures nécessaires pour construire un collectif sain et fort, il ne serait pas grevé des travers des individus affaiblis qui se grouperaient en le formant. L'anarchie et la tyrannie qui caractérisent tout à la fois nos sociétés, d'une manière qui n'est paradoxale que pour qui n'a pas lu les anciens, ne vont-elles pas se retrouver dans l'organisation que l'on construirait, principalement dans l'espoir d'en sortir? Alors, bon, je pense que ça ne me demande pas d'explication. L'idée est tout simplement que, enfin évidemment, bon, c'est tout à fait classique, ça n'a rien d'original en tant que tel, sauf que ça se pose à nous avec une actualité qui est particulière, hein, c'est que les crises que traversons et depuis un moment est une crise qui décompose intérieurement les individus et que cette décomposition des individus a pour pendant, pour symétrique, la désorganisation des sociétés. L'une étant pas séparable de l'autre, et le problème pour nous, le problème proprement politique, tenant au fait qu'il est difficile de lutter contre un ordre, ou plutôt un désordre, qui nous détruit, qui nous affaiblit, qui nous rend non seulement plus faibles, mais aussi plus faibles moralement, plus faibles intellectuellement, etc. Alors, quel rapport avec la façon dont Refaire la France a été écrit? Bon, ça n'est un mystère, ça n'est un secret pour personne. Que Refaire la France est en quelque sorte, enfin aurait pu en quelque sorte être le manifeste d'égalité et réconciliation si les choses n'avaient pas tourné autrement. Alors je vous dis tout de suite que je n'ai pas du tout envie de discuter des crises successives d'égalité et réconciliation. Je ne désire pas, comment dire, m'apesantir sur la question morale, n'est-ce pas? Mais je n'en parle qu'au titre de l'histoire. De la façon dont ça a été écrit. Alors, ceux qui ont connu Égalité et Réconciliation dans ce temps-là savent que il y avait quelques sections actives, quelques sections dont l'organisation a été faite en partie sur un modèle que j'avais proposé, d'ailleurs, de l'université d'été, de la deuxième université d'été d'Égalité et Réconciliation. Et par ailleurs, qu'il y avait aussi un forum interne sur lequel il y avait le meilleur et le pire. En fait, il y avait toutes sortes de choses. Ça ne volait pas toujours très haut. Mais il y avait tout de même aussi une discussion qui produisait des résultats. Refaire la France est un livre que j'ai écrit à la réserve près de quelques chapitres dont les auteurs sont marqués. Enfin, dans ce cas-là, je n'ai été que le rédacteur, en quelque sorte, ou pratiquement l'éditeur. Hein, autrement, bien sûr que ce n'est pas comme certains l'ont prétendu, mais je crois que la légende est tombée assez rapidement parce qu'il suffit d'avoir le livre en main pour voir qui l'a écrit, si je puis me permettre. Ce n'est pas un ouvrage qui est complètement le fruit de l'activité interne d'Égalité et Réconciliation, mais on peut tout de même dire que, en tout cas, ça a été mon souci, il est écrit en recueillant, parfois en avançant peut-être un pas plus loin ou deux pas plus loin, mais pas énormément plus loin, j'allais dire en recueillant ce qui se disait ou se faisait de mieux à Égalité et Réconciliation. Ce qui m'a intéressé, en fait, c'est le genre de vie intellectuelle, ou je sais pas comment on peut appeler, politique, morale, etc., qui existait à l'intérieur de l'association, dans ses meilleurs segments, disons, dans ses meilleures ses sections ou dans les parties du forum qui font bien. Et ce qui m'a passionné là-dedans, c'est que tous ceux qui ont participé à cette époque-là à Égalité et Réconciliation, à commencer par moi-même d'ailleurs, nous avons tous, je pense, avancé sensiblement dans notre réflexion. Et cela, pas seulement, je dirais pour ma part, pas principalement par la lecture des livres d'Alain Soral, mais véritablement par cette espèce d'atmosphère fraternelle, de travail commun, d'élaboration commune, qui non seulement nous a fait à tous comprendre certaines choses, je le dis pour moi-même, j'ai dû faire beaucoup de lectures pour me mettre à la hauteur de ce que j'estimais être mes responsabilités à l'époque à Égalité et Réconciliation. Ces lectures m'ont fait beaucoup avancer, et de même la nécessité, quasi quotidiennement, de débattre de leur contenu avec les adhérents, soit du forum, soit dans ma section époque en Normandie. Ce qui m'intéressait, c'était donc cette espèce de travail collectif qui m'a semblé permettre à pas mal d'entre nous de progresser, de construire, d'avancer. Alors, pour reprendre le propos dans l'ordre, donc Refaire la France a été écrit en partie en recueillant des contributions qui étaient dans le forum en les réécrivant. On peut, il a été également écrit à partir de discussions qu'il y avait dans les sections, etc. Les problèmes, les thèmes ont été soumis à des sections dans lesquelles certains rapporteurs ont donc animé un débat. Bon, tout ça n'a pas très bien fonctionné, de telle sorte qu'à la fin, ce que je voulais faire, qui n'était que de rédiger, que le secrétaire en quelque sorte d'une production collective, n'a pas été possible. Donc je suis véritablement quand même, il faut le dire, l'auteur de ce livre. Malgré tout, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est de capter cette activité-là. Et ce qui m'intéresse, c'est le modèle d'organisation, encore une fois, que cela implique. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que ce qui m'intéresse dans l'organisation, c'est justement la formation au sens, en quelque sorte, d'amener les individus à retrouver la plénitude ou à développer au maximum leur propre capacité, leur puissance d'agir, de sentir et de penser, comme dirait Spinoza, qui est, à mon avis, écrasé et mutilé par le genre de vie sociale qui est la nôtre aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il me semble qu'on ne peut pas et on ne doit pas séparer la question de la construction d'une organisation de combat et la question du développement intérieur des individus. À vrai dire, en quelque sorte, enfin, une part de la piste, enfin, je suis parti quand même en partie, pour partie, disons, d'une réflexion des considérations du livre d'Alain Soral sur la féminisation, puisque je me suis demandé dès le début comment faire, c'est-à-dire comment, en quelque sorte, faire fonctionner le dispositif à l'envers, parce que c'était bien gentil, ou c'était bien beau, ou c'était déjà beaucoup, disons, d'en faire la critique, de le caractériser, mais ça n'était pas suffisant, puisque ce que nous voulions, c'était quand même y remédier. Et évidemment, si les individus dysfonctionnent, on le comprend bien à la lecture du livre d'Alain Soral sur la féminisation, c'est aussi à cause d'un dysfonctionnement des familles. Quel remède y a-t-il à ce dysfonctionnement-là? Quelle voie y a-t-il vers, si on peut dire, une sorte de revirilisation, enfin pour parler d'une façon un peu soralienne, enfin plutôt en détournant, je ne sais pas comment dire, enfin en extrapolant à partir de, ou en disant en positif ce que Soral disait en négatif à l'époque, eh bien, Il m'a semblé qu'il y avait pour cela deux voies principales, l'une qui était l'organisation et l'autre le réenracinement. Alors, on pourra reparler après du réenracinement, puisque de toute façon, à mon avis, c'est lié. Le réenracinement doit être à bien des égards le contenu de la formation, dont l'organisation et le lieu. Cette phrase est un peu dense, mais je pense que c'est tout à fait important hein, de comprendre la connexion entre les deux thèmes. Mais en un sens, il m'a semblé que l'organisation en elle-même, mais qui devait de ce point de vue être véritablement une organisation de combat, une organisation orientée vers l'action, pouvait être le lieu, en quelque sorte en complément, disons, en complément de ce qui pouvait se redresser par ailleurs dans l'organisation des familles ou je ne sais quoi, pouvait être le lieu de la reformation des individus. Oui, je ne parle pas juste d'une formation au sens intellectuel, ni même d'une formation seulement militante, mais vraiment d'un développement en quelque sorte intérieur. Alors, je crois que c'est un point très important. Vous devez penser que je ne parle là que de choses un peu abstraites, je n'aborde pas les questions philosophiques. Je pense que c'est extrêmement important, précisément à cause de toutes les remarques que l'on connaît sur la narcissisation de nos sociétés, c'est-à-dire sur cette espèce de disposition d'esprit qui fait que les individus deviennent de plus en plus incapables d'un engagement, notamment d'un engagement sérieux et combatif. Bon, c'est ce qu'on appelle très platement du nom d'individualisme, etc. Mais la formule de narcissisation me paraît très juste, très intéressante, au sens où elle marque un repli des individus qui se soucient davantage de leur développement personnel que d'une intervention dans la société. Et bien précisément, hein, pour remédier à cela, sans prétendre, comment dire cela, se contenter de faire des discours de dénonciation de la narcissisation, etc. Et bien pour parvenir à cela, il faut certainement, comment dire, prendre en compte cette dimension narcissique de l'Européen ou de l'Occidental contemporain, c'est-à-dire justement lui proposer un type d'organisation politique dans lequel il puisse aussi, disons, pour une part du moins, travailler à son propre redressement ou développement intérieur. Par ailleurs, bon. Alors, quand j'avais présenté quelques propositions d'organisation à l'université, la deuxième université d'été d'égalité et réconciliation, j'avais présenté quelques règles qui me paraissent être utiles et de bon sens, qui sont un petit peu de style bolchevique pour dire les choses comme elles sont. On pourra en rediscuter après, qu'importe. De toute façon, je crois que le topo que j'avais fait à l'université d'été d'égalité et réconciliation se trouve, je ne sais où, sur Internet. Mais je pense en même temps qu'il y a un autre modèle parfaitement intéressant. Enfin, il y a toutes sortes de modèles qui doivent nous donner à penser, mais un modèle historique intéressant ben, dans l'histoire du mouvement ouvrier qui n'est pas le modèle bolchevique, qui est le modèle du syndicalisme révolutionnaire, dans lequel le concept était que l'organisation devait être une préfiguration de la société future. C'est-à-dire, en somme, elle devait fonctionner elle-même, en quelque sorte, comme un embryon de la société que nous aspirerions à construire. Et je pense que c'est un très bon principe. C'est-à-dire que je ne souhaite pas pour ma part, enfin je ne m'imagine pas pour ma part qu'une organisation crapuleuse, dysfonctionnelle, malsaine, ou une organisation dans laquelle les individus seraient exploités ou écrasés, ou dans laquelle on ne se soucierait pas de leur épanouissement, je ne pense pas qu'une telle organisation puisse être aujourd'hui politiquement utile en France. Alors, voilà. Voilà à la fois dans quel esprit Refaire la France a été écrit, voilà sur quel modèle d'organisation il tend. Et si vous voulez, pour comprendre vraiment où tout cela va, parce qu'après on peut détailler le contenu de Refaire la France, hein, pour comprendre vers quoi tout cela est orienté, ben je vous donnerai tout à l'heure les liens vers ma conférence sur le bien commun, une conférence que j'ai prononcée à Rouen il n'y a pas très longtemps, qui est sur mon blog en trois morceaux. Donc là, j'essaye vraiment d'articuler complètement cette notion de bien commun, c'est-à-dire justement précisément cette réflexion sur la façon dont la création d'une société véritablement organique, qui a elle-même pour instrument la construction d'une organisation de combat plus ou moins organique, est la condition pour le développement maximum de l'individu, de telle sorte qu'il n'y a pas d'un côté l'intérêt individuel et de l'autre l'intérêt général, le premier devant être tout ou partie sacrifié au second. En tout état de cause, pour en venir, j'allais dire, là encore, pas ce qui fait le centre le plus visible d'égalité et réconciliation, mais à ce que j'avais en tête, puisque bon, je suppose qu'ensuite, on pourrait avoir une discussion, notamment s'il y en a quelques-uns qui ont lu le livre, sur tel ou tel passage qui vous aurait plu, des plus choqués ou intéressés, ou dont vous voudriez plus de, sur lequel vous voudriez plus de clarification. En somme, je disais tout à l'heure, deux points, n'est-ce pas, pour contrer ce que Alain Soral appelait la féminisation, ou pour, comment dire ça, sublimer, enfin, je peux comment dire, retourner en avantage ce qui est une extrême faiblesse, à savoir la narcissisation, eh bien, j'avais dit deux points, donc l'organisation d'une part, et de l'autre, le réenracinement. Réenracinement. Donc je pense, il y avait une formule souvent, enfin, j'ai souvent répondu d'ailleurs aussi bien à Alain Soral qu'à Marc Georges, qui l'un et l'autre me disaient qu'il fallait doubler le NPA sur sa gauche, en leur disant oui, et en même temps, ce qui est peut-être ma vision à moi de la réconciliation, doubler les identitaires sur leur droite. C'est-à-dire que pour ma part, je pense que véritablement, il était essentiel de développer en même temps que toutes les thématiques sociales et économiques qui nous étaient chères, et bien en même temps une vraie thématique du réenracinement. Thématique du réenracinement, qui là encore a une dimension politique, mais qui doit aussi être prise d'une façon, je dirais, presque spirituelle, c'est-à-dire au sens où il s'agit aussi pour l'individu qui se réenracine. Alors ceux qui sont lecteurs de Barrès, j'espère qu'il y en a, le savent, hein, le réenracinement dont parle Barrès, c'est vraiment une façon pour l'individu de se rebrancher, si je puis dire, sur les sources vivantes de sa propre identité, c'est-à-dire hein, de se resituer comme un maillon dans une longue chaîne de nombreuses générations passées, en même temps que comme une sorte de cellule d'une société actuelle faite de nombreux individus. Hein. Cette façon de faire pour Barrès, contrairement à tous les discours que l'on entend, tous les discours, disons, anti-identitaires, anti-nationalistes, qui représente justement l'identité comme quelque chose de clos, comme quelque chose de fermé, comme quelque chose de mort. Au contraire, pour Barrès, c'est le cosmopolitisme, c'est le déracinement qui sont mortifères. Et l'enracinement, au contraire, est une condition de la croissance maximum de l'individu, c'est-à-dire là encore de son renforcement, et y compris du renforcement de ses capacités de résistance et de combativité. Me semble-t-il, si on prend les choses par ce bout-là, je crois que, comment dire, qu'il y a un horizon qui se dégage au-delà de l'horizon du réenracinement, qui est l'horizon proprement spirituel. D'ailleurs, il est assez curieux et intéressant que plusieurs de ceux qui ont traversé égalité et réconciliation d'une façon ou d'une autre, alors sortait déjà par-devers eux cette conviction, soit ils l'ont développée ensuite, ou elle s'est modifiée chez eux. Donc, comment dire ça? Que la question du spirituel, donc la question du fait que ce n'est pas qu'il faut postuler une croyance religieuse, mais c'est que le développement dont on parle, le développement donc, comment dire, le développement de l'individu, qui doit se faire du côté du réenracinement, ne peut se parfaire, ne peut aller jusqu'au bout, que si on voit qu'à l'horizon, en quelque sorte, de ce réenracinement identitaire, national et régional, il y a l'horizon donc proprement spirituel, l'horizon proprement même religieux, il faut le dire, pour l'appeler par son nom. Voilà, donc je pourrais détailler ensuite toutes sortes d'éléments de ce qui caractérise, enfin d'éléments du contenu de Refaire la France, mais j'avais vraiment à cœur de mettre au centre ces deux points, parce que, si vous voulez, c'est aussi la faiblesse de ces deux points qui m'a conduit à prendre mes distances avec Égalité et Réconciliation, soit dit sans vouloir faire de polémique. Les deux points dont je parle, donc c'est vraiment la question de l'organisation, au sens où je l'entends, de l'élaboration collective, au sens où je l'entends, d'une part, et puis donc de l'organisation comme préfiguration de la société future, l'organisation de combat comme préfiguration de la société future, d'une part, et puis d'autre part, la question du réenracinement, qui me semble n'avoir pas toujours été mise suffisamment au centre. Je me souviens de la perplexité ou du silence que je rencontrais quand je disais à l'époque à la fois doubler le NPA sur sa gauche et les identitaires sur leur droite. Voilà, je crois que je n'ai parlé que guère plus de 25 minutes à peine, mais je pense qu'il ne sera pas plus mal maintenant de rendre la parole à ceux à qui je l'ai trop longtemps confisqué, quitte à discuter plus précisément de tel ou tel point. Et d'ailleurs, pouvoir lever enfin mon doigt de la touche qui me permet de parler va me permettre aussi de regarder les passages du bouquin que je voulais vous citer. Voilà, merci.
J'aurais peut-être une question pour commencer, puisque tu as parlé d'Alain Soral et de la féminisation et du contraire, de l'envers, à la revirilisation. Est-ce qu'il y a d'autres penseurs importants sur le plan du politique, des penseurs du corps politique, desquels tu t'es inspiré pour écrire ce livre?
En fait, les deux références les plus citées, c'est Barrès, Maurice Barrès, et Spinoza. Et ce n'est pas un hasard, puisque Maurice Barrès, c'est vraiment le penseur du réenracinement, tandis que je pense que Spinoza donne quelques pistes, si on le lit d'une certaine façon, pour penser l'organisation. Donc voilà, c'est comme c'est tout naturel, puisque ce sont les deux fils principaux, selon moi, qu'il faudrait suivre pour surmonter cette affaire de la féminisation.
Sébastien, j'aurais une question, moi. Comment toi tu vois donc la place de la religion, voilà, dans la France, dans ta France, dans ta vision de la France, sachant qu'en ce moment, bah, tu vois bien qu'il y a pas mal de mouvements au niveau justement des musulmans, puis même il y a enfin, d'autres mouvements aussi. Est-ce que tu voilà comment tu vois ça, toi?
Là, il faudrait que je réponde enfin, je pourrais répondre sur plusieurs plans parce que, en fait, là-dessus, pour ce qui est de refaire la France, je suis vraiment réglé sur ce qui me semblait être à peu près le niveau de compréhension de ces questions-là dans Égalité et Réconciliation. Alors, le chapitre sur l'islam, par exemple, n'est pas du tout de moi. Il est, alors, sous un autre nom, mais de notre ami Sofiane, enfin, je le dis puisqu'il était au Bureau national d'égalité et réconciliation. En fait, il y a trois parties vraiment sur la religion. Il y a la partie sur l'islam, je dirais que son esprit est très laïque, c'était l'esprit de Sofiane, c'est pas moi qui ai donc écrit ce chapitre. Il y a comment dire, une partie sur le. En fait, c'est pas tant sur le judaïsme, mais sur le culte mémoriel. Sur le judaïsme, c'est très court, hein, et c'est pareil, c'est traité de façon très laïque, pour ne pas dire laïcarde, hein, c'est-à-dire, comment dire, non-empiétement des religions dans la sphère publique. Et puis, ce qu'il y a sur le christianisme, sur la religion catholique notamment, les catholiques et protestants qui ne sont pas très distingués, c'est vraiment seulement sur le plan identitaire. C'est-à-dire là, il n'y a vraiment pas de discours fort sur la religion dans Refaire la France, et c'est voulu comme tel, parce que ça correspond, me semble-t-il, à ce qui était le niveau de la réflexion dans Égalité et Réconciliation. En gros, par exemple, sur la religion catholique, il n'y a rien de plus que l'exigence d'un profond respect de quelque chose qui est constitutif de notre identité, mais tout simplement au sens où on serait choqué de voir saloper une cathédrale, par exemple, parce que c'est à nous, parce que c'est notre patrimoine, etc. Après, je peux répondre à titre personnel autrement, mais dans Refaire la France, ça ne va pas au-delà de là, et c'est pas au-delà de ça, et c'est tout à fait volontaire. Je pense que c'est intéressant. Enfin, j'ai écrit ce bouquin, enfin, ou nous avons écrit ce bouquin comme un manifeste et pas comme l'expression de réflexion philosophique personnelle. Oui, je pense en effet que l'invocation des massacres hitlériens a tout à fait pris une tournure sacrée, religieuse. Enfin, on pourrait tout à fait traiter ça sur le plan de l'anthropologie religieuse, hein, en utilisant les instruments des sciences humaines pour montrer à quel point c'est une construction en effet religieuse. Et je pense vraiment que c'est. Enfin, alors après, je ne veux pas me lancer dans la question des rapports entre le culte mémoriel, le sionisme et le judaïsme comme religion, vient tout ça et amalgamé de façon complexe et surtout qui rend la critique particulièrement périlleuse, hein, même juridiquement. Mais enfin, force est de constater, hein, qu'on a vraiment créé une espèce de machine à écraser, à culpabiliser, qui est infiniment pire que tout ce qu'on a pu reprocher à la religion catholique, en fait d'abaissement, comment dire, de d'écrasement des pulsions vitales, pour parler comme Nietzsche, etc. On a vraiment créé un dispositif qui a vocation, à mon avis. Alors bon, est-ce que c'est complètement pensé jusqu'au bout, complètement calculé? Je ne sais pas. Il y a aussi, comme dit Deleuze, la névrose, cette maladie qui consiste à rendre les autres malades. Il y a des individus malades dont le tempérament les porte à rendre les autres malades. Mais toujours est-il que oui, il y a vraiment quelque chose. Enfin, pour moi, le culte mémoriel, c'est un des ingrédients très importants, très forts, de cette espèce d'abaissement, d'écrasement, d'affaiblissement des individus, d'affaiblissement intérieur, qui est, à mon avis, d'ailleurs, la vérité de ce qu'Alain Soral appelle la féminisation. C'est-à-dire, pour moi, au-delà de la féminisation, il y a une forme d'écrasement global ou de destruction des individus, de destruction intérieure et morale des individus, enfin, dont le culte mémoriel de la Shoah est effectivement un des ingrédients principaux. Alors après, comment réagir à ça? C'est tout à fait, à mon avis, tout à fait compliqué en pratique. Je n'ai pas d'idée toute faite sur la question. Je pense que c'est réellement très difficile. Je pense que là, en l'occurrence, enfin, à moins d'imaginer une issue politique par laquelle, bon, tout simplement, les Français porteraient au pouvoir une personne qui aura réellement décidé d'en finir avec toutes les formes de repentance et d'empêcher les associations communautaires de se livrer à des procès sans fin, etc. Bon, pourquoi pas? Mais autrement, je pense que, enfin, moi, j'ai quand même observé à une époque où j'étais extérieur à tous ces milieux-là, que les milieux qui résistaient le mieux à ce genre d'emprise, c'était quand même, par exemple, enfin, des milieux religieux, c'est-à-dire soit les milieux catholiques traditionnalistes, soit certains milieux musulmans. Et que dans ces groupes-là, de fait, se développaient, mais probablement, justement, ça ramène à la question précédente, en rapport avec une pratique religieuse, en prenant appui, en s'étayant de la religion, une forme de résistance à toutes les formes d'empoisonnement mental, et notamment, enfin peut-être bien notamment, le culte mémoriel. Alors voilà, après, j'ai pas de solution miracle sur le plan politique proprement, pour contrer le culte mémoriel. Je ne sais pas si la lutte sur Internet, par la polémique, etc., si ça a une quelconque efficacité. Je ne sais pas. C'est-à-dire qu'en fait, le problème est que dans toutes ces choses-là, il ne suffit pas de dénoncer, de critiquer, de réinformer les désinformés, etc. Parce que le problème, c'est pour moi, c'est la structure même des individus qui est profondément affaissée, enfin affaiblie, et qui les rend presque incapables du type de ressort, du type de réaction qu'il faut pour adhérer à des idées vraies et saines. Oui, en effet. Enfin, je ne sais pas quel est le rapport avec mon passage à égalité et réconciliation. Je pense, pour être honnête, qu'il faudrait mettre les choses dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est un commencement d'évolution de mes propres conceptions, notamment sur ce plan-là, je veux dire spirituel, qui m'a permis d'aller vers égalité et réconciliation, et qui, s'approfondissant, a fait qu'à la fin, je ne m'y sentais plus vraiment à ma place, et notamment, je me sentais en grand décalage avec l'espèce de discours quand même républicain et laïcard que, il faut dire les choses comme elles sont, on tenait en quelque sorte à égalité et réconciliation à l'époque, parce que je rappelle que dans la charte de R de l'époque, en tout cas, je ne sais pas ce que c'est devenu, je n'ai plus aucune idée, mais il y avait une sorte d'affirmation de respect à l'égard de toutes les spiritualités. Mais enfin, il y avait, en revanche, la position à propos des religions était quand même, oui, une position tout à fait laïque, c'est-à-dire à l'époque. Hein, enfin, alors aujourd'hui, je sais bien que c'est développé, enfin, qu'Alain Soral a développé un discours sur comment dire, le caractère maçonnique de l'idéologie laïque, etc. Mais il faut dire les choses comme elles sont. À l'époque, il y avait une espèce. À côté de la proclamation d'un respect pour toutes les formes de spiritualité authentique, il y avait un discours, en somme, laïque. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir le chapitre sur l'islam dans Refaire la France, qui, comme je l'ai dit, est l'œuvre, enfin, j'ai à peine, enfin, j'ai un petit peu, comment dire, retouché, qui est l'œuvre de Sofiane, notre amie Sofiane, notre camarade à l'époque, Sofiane, qui est donc, à mon avis, d'un esprit purement laïque, c'est-à-dire qui vise à donner une place à l'islam en France en l'obligeant en quelque sorte à s'autofinancer, à s'émanciper de ses, de ses appuis étrangers, enfin, pour devenir véritablement peu à peu un islam de France financé par ses propres croyants en toute indépendance mutuelle de la religion et de l'État. Et en fait, finalement, le point de vue global sur la religion, égalité, réconciliation, à l'époque de l'écriture de ce bouquin était celui-là. Alors, je pense qu'Alain Soral a lui-même évolué de son côté, Marc-Georges aussi. Et moi aussi, d'une autre façon, enfin chacun à sa façon. Alors je ne sais pas, Alain Soral, où il en est à l'égard de la religion. Je pense que Marc-Georges, c'est une préoccupation qui s'est par exemple beaucoup approfondie chez lui et chez moi sous une autre forme. C'est pas qu'elle s'est approfondie, mais qu'elle a changé puisque je me suis reconverti, si je puis dire, à la religion de tous mes ancêtres, puisque je suis reconverti à la religion catholique. Je suis devenu tout à fait pratiquant. Ce n'était pas du tout le cas à l'époque où j'avais des responsabilités, égalité, réconciliation, etc. Donc mon point de vue a changé, effectivement.
Très bien, alors puisque tu parles de laïcardisme et de l'évolution d'égalité et réconciliation et de ta position personnelle sur le laïcardisme, j'aimerais que tu dises un mot éventuellement du rapport aux régions et du jacobinisme, si c'est possible, de ton point de vue là-dessus. Merci.
Oui, ça c'est une très bonne question aussi, parce que bon, moi j'ai dès le moment où j'ai rejoint Égalité et réconciliation, j'ai souhaité développer un point de vue régionaliste parce que je m'étais bien sûr plongé dans la lecture des classiques du nationalisme, qui n'ont pas toujours été mon livre de chevet. Hein, je ne vous cache pas, je ne suis pas toujours été lecteur de Maurras et Barrès, mais j'ai bien lu les deux et j'ai une affinité particulière pour Barrès, enfin avec Barrès. Et donc, en tout cas, chez ces deux penseurs, le régionalisme et le nationalisme ne sont pas du tout deux choses séparées. Et j'ai toujours souhaité qu'on développe ce même point de vue à égalité et réconciliation. Non seulement c'est une conviction intellectuelle de ma part, enfin une conviction, une adhésion à certaines idées de ma part, mais en plus, c'est aussi en animant ma propre section normande que j'ai remarqué à quel point les camarades, notamment ceux qui étaient issus de milieux sociaux pas très privilégiés et qui n'avaient pas à la base forcément une très bonne image d'eux-mêmes, hein, étant donné notamment ce que j'allais dire, ce que l'on fait de nous, quoi, enfin ce que la société dans laquelle nous vivons aussi fait de nous, que donc eux, ils étaient, comment dire, enfin au début on a fait, quand on a constitué la section normande, on a fait des promenades, enfin on a fait des balades, on a été voir des monuments locaux, je sais pas, des ruines de châteaux forts, tout ce que vous voulez. Et honnêtement, j'ai vraiment eu le sentiment de voir certains gars je sais pas comment dire, se déplier, se déployer, enfin se rendre compte d'un seul coup de leur propre valeur, de leur propre grandeur, de leur propre dignité, en se disant, ah oui, mais tout ça, c'est à nous. C'est-à-dire, tout ça, d'une certaine façon, c'est à nous, et quand on dit c'est à nous, ça ne veut pas dire c'est quelque chose dont on peut disposer. Non, non, ça veut dire c'est un patrimoine dont on a l'usufruit, comme on dit, dont on peut disposer, auquel on peut prendre plaisir, mais dont on a la charge, et notamment que l'on est responsable de transmettre intact aux générations futures. Donc pour moi, enfin, je suis très très profondément persuadé du fait que d'abord, comment dire, un nationalisme sans régionalisme, ce n'est rien d'autre que ce qu'on appelle le jacobinisme, au mauvais sens du terme, parce que je ne sais pas si les jacobins étaient jacobins, historiquement, c'est toute une discussion, hein, mais en tout cas, ce qu'on appelle couramment le jacobinisme, plutôt la mentalité, comment dire, d'homogénéisation totale de la République une et indivisible, façon Troisième République, avec persécution des langues régionales, etc., que c'est une chose absolument détestable, et qu'il fallait évidemment sortir de ce modèle-là, précisément, comme du modèle de la laïcité Troisième République, pour aller plus loin. Mais bon, en même temps, il est possible, bon, moi j'ai toujours eu ces convictions, il est tout à fait possible que si on avait été jusqu'au bout, notamment si on avait suivi les idées développées dans Refaire la France, ça aurait quand même aussi créé une série de problèmes, je veux dire internes, à égalité et réconciliation, enfin ça aurait posé des problèmes, précisément parce que la réconciliation dont on parlait, Ça supposait aussi, d'une certaine façon, eh bien, de faire table rase des identités particulières. Moi, je pense que non. Enfin, je pense qu'on pouvait les composer organiquement. On n'était pas obligé de tout unifier pour supprimer les contradictions. Mais c'est plus compliqué, bien sûr, si on se rend compte qu'il s'agit de faire travailler ensemble des gens qui ont des identités disparates et que l'on peut, donc, comment dire, dont on peut espérer qu'ils vont se renforcer, se redresser, etc., seulement moyennant un réenracinement, donc dans leur identité en même temps particulière. Ah, c'est évidemment ce à quoi je parle implicitement, c'est que c'est beaucoup plus compliqué si on n'a pas affaire qu'à des Français de souche. Et comme le propre d'égalité et réconciliation, c'était justement que ce n'était pas un club de Français de souche, eh bien, ça allait forcément, sinon poser des problèmes, du moins demander une réflexion complémentaire et supplémentaire.
Et par ailleurs, pardon, pour te faire rebondir là-dessus, c'est à la fois une question et une remarque. Disons que j'avais l'impression qu'au début de la réflexion d'égalité et réconciliation, la question de la région était vue sous l'angle régionaliste, c'est-à-dire que celui qui s'intéressait à sa région, à l'héritage de ses ancêtres, était considéré comme finalement un séparatiste. Donc ça, c'est une question classique. Moi qui suis breton, intéressé à ma culture, je connais un peu le sujet. C'est-à-dire que le jacobin, enfin le jacobin au sens actuel, qui est imprégné de toute l'idéologie laïcarde, etc., qui a totalement intégré, il pense nécessairement la pensée régionale, s'intéresser à sa région, comme l'idée d'un séparatisme, sans que soit évoquée à aucun moment même la solution médiane qui serait celle du fédéralisme ou celle du réenracinement. Qu'est-ce que tu en dirais?
Ben, je suis parfaitement d'accord. Enfin, c'est-à-dire, moi, c'est un point que j'ai vraiment, enfin, qui me tenait à cœur et que j'ai tâché de développer. Mais dès le moment où j'ai rejoint l'égalité et la réconciliation, c'est pas une évolution ultérieure, hein. C'est véritablement qu'il y avait une erreur totale à vouloir concevoir le régionalisme comme une forme de communautarisme. C'est compliqué parce que du coup, quand on commence à dire que le régionalisme est une bonne chose, ça veut dire qu'on admet une identité nationale qui est en quelque sorte qui est aux communautés qui constituent la nation comme un organisme à ses organes. Ces organes qui sont à la fois différenciés, par exemple, je ne sais pas, moi, les poumons ne sont pas l'estomac, l'estomac n'est pas le cerveau, hein, mais ils sont différenciés, mais organisés. Donc c'est une unité dans la différence, une unité organique et pas une unité minérale, c'est-à-dire une unité dans laquelle tout est homogène, je ne sais pas comment dire, isomorphe, etc. Et par conséquent, alors ce que ça pose évidemment comme question intéressante, c'est quid, enfin, qu'est-ce qu'il advient des idées du nationalisme français qui a toujours été régionaliste et fédéraliste, en fait, hein, si on regarde aussi bien Maurras que Barrès, mais aussi la tradition de la pensée contre-révolutionnaire de Joseph de Maistre, de Bonald, etc., enfin, donc les restaurateurs, si vous voulez, la monarchie d'Ancien Régime, en quelque sorte. Cette pensée-là, qu'est-ce qu'elle devient si on essaye d'intégrer dedans comment dire, la considération de communautés qui ne sont pas, comment dire, aussi, enfin, dont l'insertion dans le corps de la nation française n'a pas la même profondeur historique. Par exemple, est-ce qu'on peut appliquer ça d'une certaine façon? Est-ce qu'on peut appliquer le régionalisme maurrassien ou barésien à des identités, je sais pas moi, des communautés musulmanes en France, par exemple, et ça, enfin, moi, ça me paraît compliqué, mais en fait, ça me paraît beaucoup plus intelligent comme façon d'essayer de prendre les problèmes que cette espèce de façon jacobine et laïque qui, il faut le dire, enfin, je pense que c'est pas faire injure à Alain Soral ou à qui que ce soit de le dire, qui était en gros celle d'égalité et réconciliation à l'époque et dans le cadre de laquelle je m'inscrivais pour partie, tout en commençant à défendre vraiment la question des identités régionales, composantes organiques de l'unité nationale. C'est très important parce que si on va jusque à cette prise au sérieux comment dire, enfin, du fédéralisme, enfin, d'un nationalisme de type fédéraliste, là on revient vraiment à des pensées comme celle de l'Action française, dans laquelle on a un État fort. Un État fort qui n'écrase pas, enfin, qui est concentré sur ses fonctions régaliennes et qui n'écrase pas du tout les identités avec une application intelligente du principe de subsidiarité, pas comme dans l'Union européenne, n'est-ce pas, dans l'Union européenne, il y a un principe de subsidiarité, mais bidon, enfin, mensonger, infect, qui consiste en fait à déléguer à l'échelon inférieur l'application de ce qui a été décidé au niveau supérieur. Mais la vraie subsidiarité, elle consiste vraiment à n'attribuer au niveau supérieur que les questions politiques qui ne peuvent pas être réglées plus efficacement au niveau inférieur, et à laisser pour le reste une autonomie très grande au niveau inférieur. Donc moi, je suis plutôt partisan de ce type de choses. Je dirais que le seul point vraiment important par lequel je m'écarte beaucoup de Maurras, par exemple, c'est que dans les pensées réactionnaires, enfin traditionnelles françaises, en somme, l'État, concentré sur ses attributions régaliennes, ne doit pas avoir de prise sur les questions économiques. Alors, c'était peut-être défendable à l'époque de Maurras, encore que la crise de 1929 aurait peut-être dû le faire réfléchir. Mais enfin, aujourd'hui, il est évident que si nous aspirons à un redressement national français, ça ne peut pas se faire sans une certaine prise en main d'une bonne partie de l'économie nationale par l'État lui-même. Et là, on se trouve dans une espèce de mix, c'est-à-dire on est entre les pensées issues du socialisme, y compris le fascisme, d'une part, et d'autre part, les pensées proprement contre-révolutionnaires, comme celle de Maurras ou de l'Action française. Parce que souvent, on confond, enfin, les imbéciles appellent fascisme, de toute façon, ils ne savent pas ce que ça veut dire, mais ils appellent fascisme tout ce qui a été rejeté sur l'extrême droite du champ politique français. En fait, il y a vraiment deux courants complètement hétérogènes à la base, à savoir un courant de socialisme national qui est quand même un fruit de la Révolution française et du socialisme. Hein, on sait que Mussolini était nourri de la pensée de Sorel, par exemple, hein, donc du syndicalisme révolutionnaire, d'une part. Et puis d'autre part, il y a quand même la pensée à la fois monarchiste et fédéraliste, par exemple, qui, elle, n'a aucune espèce d'affinité avec ces pensées nationales qui font de l'État national une espèce de machine totale où chaque individu est avant tout un rouage de la puissance à la fois économique, militaire, etc. de l'État. On a vraiment deux modèles contraires, mais aujourd'hui, on ne peut pas tenir, si on veut être vraiment maurrassien jusqu'au bout, on ne peut pas s'en tenir à cette conception trop traditionnelle des attributions régaliennes de l'État sur lesquelles donc l'activité de l'État doit être en quelque sorte resserrée. C'est plus compliqué. Il faut vraiment penser à un État qui va d'une certaine façon et jusqu'à un certain point prendre en main une partie de l'économie.
Merci. Là, je voulais simplement poser une question. Si justement les gens avaient d'autres questions, qu'ils n'hésitent pas et directement, qu'ils prennent directement la parole. Ou voilà. Donc il y a une question sur le chat là. Donc vas-y.
Oui, ça c'est une très très bonne question. C'est une très bonne question parce que, de fait, l'Europe, enfin la prétendue construction européenne, comment dire ça, joue les régions contre l'État. Oui, pardon, la question c'est promouvoir les identités régionales, est-ce que ce n'est pas faire le jeu de l'Union européenne? Alors en effet, l'Union européenne joue ce jeu, à savoir celui de la région contre l'État. Mais dire cela, ce n'est pas dire que le régionalisme soit essentiellement anti-étatique. À mon avis, loin s'en faut, parce qu'il suffit pour bien montrer le contraire, c'est au lieu de flatter, disons, les penchants régionalistes autonomistes, hein, il faut concevoir véritablement l'enracinement régional comme solidaire, enfin comme le premier moment de l'enracinement national. Hein, on pourrait dire français parce que normand, français parce que breton, français parce que provençal, etc. Et il n'y a pas du tout d'implication logique entre le fait de renforcer les identités régionales et de démanteler l'échelon national. Alors, si vous voulez maintenant prendre ça vraiment de façon plus hardcore, si je puis dire, sur le plan notamment du droit du travail, du droit social, il faut comprendre que la subsidiarité perverse, celle de l'Union européenne, consiste, tiens, il n'y a qu'à voir par exemple tout ce qui a été projeté pour la Corse. Il a été projeté parmi les attributions de l'Assemblée régionale de Corse, ouais, qu'elle aurait la main sur tout ce qui est réglementaire. Alors, je ne sais pas si tout le monde ici a les idées claires à propos du droit du travail. Vous savez en tout cas peut-être qu'il y a dans le droit du travail une partie qui est de l'ordre légal, enfin juridique proprement dit. Alors, donc là, ce sont les lois qui sont votées par le Parlement, etc. Et cela, donc, ça n'aurait pas été, comment dire, balancé du côté de l'Assemblée régionale corse. Ce serait resté quelque chose qui aurait fait corps, enfin, qui aurait relevé de l'unité de la République française. En revanche, tout le domaine réglementaire aurait été, comme je l'ai dit, balancé à l'Assemblée régionale Corse. Dans le domaine réglementaire, il faut savoir qu'il y a tout ce qu'on appelle les conventions collectives. Autrement dit, le régionalisme tel qu'il est promu au titre de la décentralisation par la République française depuis les gouvernements socialistes, le premier gouvernement socialiste de Mitterrand, et ensuite sur le même modèle par l'Union européenne, c'est véritablement fait pour la liquidation des acquis sociaux. Alors ça, évidemment, ça c'est un véritable problème. Mais je pense qu'il ne faut pas tirer du fait, enfin il ne faut pas tirer argument du fait que la subsidiarité perverse de l'Union européenne est une saloperie, il ne faut pas tirer de là la conclusion que toute forme de renforcement ou d'autonomie partielle, disons de, oui, enfin, d'autonomie partielle, disons de fédéralisme régional, impliquerait la même chose. Ce serait un raccourci qui serait tout simplement illogique. Alors, je ne sais pas exactement ce qu'en disent d'autres, mais enfin, à mon avis, il n'y a pas du tout de nécessité de penser que le renforcement d'identité régionale affaiblirait la nation. Alors évidemment, c'est peut-être le cas dans des discours du type de celui des identitaires, parce que sur le fond de leur thématique, enfin, ils ont une tendance, eux, à lier le réenracinement régional à une forme, si je puis dire, bon, c'est un peu caricatural ce que je veux dire, j'ai conscience du fait que je force le trait, une forme de racisme blanc, si vous voulez, qui est défendable, mais enfin, bon, qui n'est pas tellement notre propos, et qui va dans le sens de la valorisation d'une espèce d'identité globale européenne. Bon, ça n'est pas du tout mon orientation, et ce n'est pas celle du tout non plus de la tradition du nationalisme français. Hein. La logique, je pense qu'il faut promouvoir, c'est français parce que normand, parce que breton, etc. etc. Et donc l'idée selon laquelle, avant tout, ce dont il s'agit, c'est que les individus se réconcilient avec leur propre identité régionale et nationale, et par là se renforcent et deviennent plus résistants, notamment à l'égard de l'exploitation, aussi bien sur le plan économique, hein, enfin, aussi bien l'exploitation au travail. Je ne sais pas si c'est consistant, enfin je ne sais pas si la logique du dispositif est claire. Ça, je pense que c'est relativement bien expliqué dans Refaire la France, où je crois que cette position-là est vraiment développée, puisque j'ai écrit ces parties-là au moment où j'avais déjà quitté Égalité et Réconciliation, et donc en ne me souciant plus de me concilier avec le jacobinisme au sens moderne qui semblait encore régner dans cette association à ce moment-là.
Chaman,
J'aurais
t'as
une
une
question.
question?
Oui, exactement. Sur la subsidiarité justement des régions, est-ce que avant de redonner en fait un peu plus d'autonomie et pour centrer les régions sur leur culture, est-ce qu'il ne faudrait pas déjà réformer les limites administratives de ces régions, puisque il y a pas mal de régions qui ont été déchirées alors qu'elles appartiennent au même patrimoine culturel régional. Donc pour retrouver ces racines, il faut peut-être déjà retrouver les cohérences géographiques qui existaient par le passé.
Oui, bien sûr. Oui, ça c'est là-dessus, je suis assez d'accord avec Bruno Gollnisch, hein, qui dit en somme qu'il faut reconstituer plus ou moins les. Enfin, c'est simplificateur en même temps comme solution, mais les régions d'ancien régime. Bon, c'est simplificateur parce que certaines des anciennes régions ne correspondaient pas non plus à des vraies identités culturelles, d'une part, et puis d'autre part parce qu'il faut prendre la mesure du fait qu'il y a des identités qui ont pu aussi, parce que c'est quand même dynamique ces choses-là, c'est pas non plus complètement de l'ordre de l'éternel, des identités qui ont pu émerger à partir de certains découpages administratifs à la base plutôt arbitraires et même carrément faits pour briser justement le particularisme régional. Mais de toute façon, ces histoires, enfin, il faudrait prendre ça de toutes les façons avec beaucoup beaucoup de pincettes parce que d'abord, je pense qu'il s'agit vraiment d'une reconstruction complète de l'architecture de l'État qui devrait être pensée vraiment, à mon avis, tout autrement et pas, c'est pas seulement une question de plus à l'État, moins aux régions, plus aux régions, moins à l'État. C'est vraiment tout l'ensemble qui doit être conçu différemment. Et par ailleurs, pour ce qui est de ces régions ayant une identité, il s'agit dans bien des cas de reconstruire cette identité. Moi, je trouve que justement le cas breton est passionnant. Pourquoi? Parce que on voit bien qu'il y a une espèce de reconstruction, on pourrait dire méchamment de folklorisation, enfin de reconstruction de l'identité culturelle bretonne. Et aujourd'hui, extrêmement attractif, y compris pour des gens qui sont tout sauf nationalistes, qui sont plutôt anarcho-foutraques. Je sais pas pour qui le festival interceltique, c'est extraordinaire. Ça. Bon, mais toutes les régions françaises ont pratiquement le même potentiel. C'est vrai que l'identité bretonne était peut-être plus forte, mieux préservée, aussi peut-être mieux préservée à cause du moindre développement économique de la Bretagne. Par exemple, la Normandie a été industrialisée très tôt, la destruction des communautés rurales à cause de l'industrialisation a naturellement affaibli bien davantage l'identité culturelle spécifiquement normande, par exemple. On pourrait multiplier les exemples, chaque cas est particulier, mais de toute façon, il y a énormément à reconstruire, énormément à repenser. Donc oui, bien sûr, je suis tout à fait d'accord, il faudrait repenser complètement le découpage. Ah, on me demande de préciser quelques points de divergence entre Alain Soral et moi. Je serai en difficulté pour le faire parce que très honnêtement et sans comment dire, soit dit sans hostilité aucune, mais je n'ai pas bien suivi l'évolution d'Alain Soral dernièrement puisque comment dire, mon départ de l'égalité et réconciliation s'est fait dans des conditions tellement désastreuse, humainement désastreuse, sans rentrer dans les détails, que j'ai beaucoup de mal à m'intéresser à ce que devient Alain Soral aujourd'hui. Donc je ne peux pas tellement préciser. Je pourrais expliquer en quoi je me sentais quelques nuances avec lui à l'époque même où je travaillais pour égalité et réconciliation, mais je pense que c'est quand même complètement dépassé puisque je crois que il a évolué sur beaucoup de points. J'ai écouté sa dernière. Comment on appelle ça, sa dernière vidéo, sa dernière conférence, je l'ai trouvé très bonne, honnêtement. Depuis, il m'a envoyé un mail absolument infect, de façon assez gratuite, puisque ça faisait à peu près 1 an qu'on n'avait plus aucun échange. Mais bon, voilà, toute question de ce genre mise à part, j'adhère à peu près, presque totalement, au contenu de sa dernière conférence. Donc si c'est ça le dernier état de sa pensée, j'adhère. Pour ce qui est de son livre, honnêtement, je ne l'ai pas lu.
D'accord, j'aurais une autre question un peu plus théorique. Reviens un peu sur. C'est-à-dire que tu t'appuies sur les penseurs d'action française, donc effectivement le monarchisme et le fait que l'articulation très bonne qui a été réussie par le monarchisme, c'est-à-dire des gens qui sont à la fois issus de régions et qui parlaient leur langue régionale, leur dialecte. Je ne vais pas parler de patois, qui est un mot déjà négatif, mais des gens qui vivaient donc dans leur région et qui pouvaient être amenés à se battre pour le roi et à le défendre et qui restaient. Sous le règne monarchique évidemment catholique. Donc le multiculturel régional et enraciné était admis évidemment par le monarchisme qu'ils avaient réussi cette combinaison. Mais ils n'ont pas envisagé à mes yeux, enfin, ou du moins parce que c'est de l'époque, ne se prêtait pas non plus, ils n'ont pas envisagé à mes yeux le côté multi-religieux, puisque évidemment le monarchisme se base sur la religion catholique et le roi hérite son pouvoir de Dieu. Alors est-ce que tu arrives à éclairer la situation actuelle, notamment la question de l'islam, bon, sans revenir sur le judaïsme, qui est une autre question, mais l'islam qui a été promu par égalité et réconciliation, est-ce que la lecture de tes. De ces auteurs d'action française, Barrès et autres, Maurras, peuvent te renseigner là-dessus.
Si je voulais répondre vraiment sérieusement et sincèrement, il faudrait que je réponde en 2 temps, à savoir la façon dont j'aurais réglé cette question-là, ou du moins envisagé une solution possible à ce genre de question quand j'ai écrit Refaire la France ou quand j'étais à Égalité et Réconciliation, et puis ce que j'en pense aujourd'hui. Alors, premier point, à l'époque, j'ai juste pris l'équation, j'allais dire, parisienne, ou si on veut maurrassienne, comme une équation avec un certain nombre de, comment dire ça, avec des constantes et des variables, et en me disant, bon voilà, peut-être est-ce que ça peut fonctionner en ajoutant à tout cette espèce de dispositif dynamique avec les régions diverses qui s'intègrent harmonieusement dans une unité nationale. Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de voir si ça marcherait pas? Enfin, est-ce que c'est absurde d'imaginer une identité étrangère et pas étrangère, c'est-à-dire ayant elle-même aussi une articulation historique assez prolongée avec, bon, pas comme la religion catholique, mais avec une histoire, une partie d'histoire commune avec la France. Est-ce qu'on peut essayer de penser ça dans un modèle barésien ou maurrassien? Alors, on sait bien que ces auteurs-là, bon, notamment Maurras, étaient complètement anti-colonialistes, et que s'ils n'avaient tenu qu'à eux, la France ne serait pas répandue au-delà du fameux précaré. Hein. Mais la chose est en fait, par exemple, on voit bien qu'une bonne partie des Français issus de l'immigration, comme on dit aujourd'hui, sont issus en fait des anciennes colonies françaises, et que ces anciennes colonies françaises ont bon, un morceau d'histoire en commun avec la France, de telle sorte que la France fait partie, je veux dire, pour les individus qui en sont issus, d'une certaine façon, de quelque chose de leur identité, pas seulement au sens d'un choix, d'une option, d'un désir d'être français au sens jacobin, au sens où on est français, comme on va dire à la Déclaration des droits de l'homme, je ne sais quoi, mais vraiment aussi au sens barésien, c'est-à-dire au sens d'une identité profonde en quelque sorte transgénérationnelle. Bon, ça c'était mon point de vue à l'époque. Disons, j'allais dire, c'était un point de vue, comment on va dire ça, je considère la chose comme problématique, mais je la regardais de façon plutôt, comment dire, favorable. Aujourd'hui, bon, j'ai un petit peu changé de point de vue, c'est-à-dire qu'effectivement, je considère qu'il est difficile, vraiment difficile, d'être nationaliste français sans être catholique, au moins, comme on dit, de bouche, quoi, au moins formellement, au moins extérieurement. J'ai du mal maintenant, j'ai de plus en plus de mal à imaginer cette espèce de multiculturalisme réconcilié sous bannière de l'égalité et réconciliation, quoi, au sens propre, sous bannière le banc rouge. Enfin, j'avoue que j'ai de plus en plus de doutes à cet égard, la dégradation progressive de la situation me rendant de plus en plus pessimiste. Et bon, il est possible, enfin, je suis peut-être tombé en quelque sorte à la droite d'égalité et réconciliation, dans ce qu'à l'époque j'aurais regardé moi-même, et ce qu'en tout cas Alain Soral aurait stigmatisé comme une espèce de délire identitaire, complètement réactionnaire, et enfin non, je pense pas qu'on puisse me caractériser comme réactionnaire du point de vue social et économique, mais en tout cas comme une espèce de combat d'arrière-garde pour petits blancs et gris, peut-être.
Évidemment, donc, pour poursuivre la question, la question que j'ai posée, enfin la remarque, enfin, la question que j'ai posée à laquelle tu as répondu, c'est la question du post-catholicisme, donc les gens issus de d'autres religions, enfin d'autres pays, que ce soit des anciennes colonies ou pas, mais qui ont d'autres confessions. Et puis également, comment dire, la promotion via Internet de nouvelles formes de religiosité. Le bouddhisme, etc., qui sont étrangères normalement à l'Europe et aux immigrants, à la très grande majorité des migrants en Europe. Mais évidemment, on peut prendre le problème dans l'autre sens en disant que la France n'a pas toujours été chrétienne et qu'avant, elle avait des formes de religion qui n'étaient pas le christianisme. Alors, la question, évidemment, c'est les religions différentes dans lesquelles le catholicisme s'est installé n'ont pas toujours réagi de la même façon. Je sais que dans le monde celte, ça a été plutôt un rapport d'acceptation, comme une fatalité. Enfin voilà, je rapporte donc entre ce qu'on appelle le paganisme, à mon avis à tort, hein, puisque ça ne veut pas dire grand-chose, et le christianisme. J'imagine que tu t'es posé très largement la question.
Oui, mais je n'ai pas du tout de réponse toute faite. C'est extrêmement compliqué, toutes ces affaires-là. Et surtout, voilà, bon, il se trouve que je n'ai pas toujours été catholique. Je suis issu d'une famille totalement catholique, aussi loin que je puisse remonter. Mais personnellement, ben, je suis né en 70, donc à l'époque où il était de mode de ne pas baptiser les enfants et de leur dire que ce sera à eux de choisir plus tard leur religion. Donc j'ai erré un certain temps. Avant de revenir à l'alma mater, si vous voulez, enfin, bon, qu'importe le détail, mais je suis quand même particulièrement conscient du fait que la religion catholique est extrêmement affaiblie, et puis extrêmement ringardisée, extrêmement, et que même ceux qui en défendent une forme authentiques ont un mal de chien à ne pas se crisper dans des espèces de réactions un petit peu pas très très défensives et parfois agressives. Donc la chose est complexe. En même temps, parmi mes expériences passées multiples et variées, Je me rappelle aussi d'avoir beaucoup entendu les lambertistes, enfin les trotskistes, quand je me moquais d'eux à l'époque, puisque c'était eux, alors pour être des laïcards, vraiment des laïcards enragés, je me moquais d'eux en leur disant, enfin, pourquoi vous acharnez-vous contre l'Église catholique? C'est une chose morte, c'est une chose complètement finie, etc. Et ils me disaient toujours, les cadres sont encore là, la structure est encore là, ça peut être ravivé en quelque sorte à tout moment. Ils avaient vraiment, bon, ça c'est à partir d'une réflexion très sérieuse au fond sur l'histoire, le sentiment que les structures, tant qu'elles persistent, structures anciennes, immémoriales comme ça, peuvent être ravivées enfin, infiniment plus vite qu'on ne peut construire une structure de remplacement. Je trouve ça tout à fait intéressant. Alors bon, je ne veux pas rentrer dans la discussion que je vois se poursuivre à l'écrit dans le forum. Je trouve que c'est vraiment pas le lieu de discuter de questions théologiques parce que c'est vraiment très 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 compliqué. De toute façon, à la limite, toutes ces questions, comment dire, un peu, à mon avis, frivoles, enfin, qui ne sont pas sérieuses du point de vue religieux, je veux dire celles qui sont là débattues à l'écrit et dont il n'y aura pas de trace sur l'enregistrement, ces questions-là ne changent rien en fait, que de toute manière, on ne peut pas en sortir. La religion de la France, si on peut dire, c'est la religion catholique. Après, le reste, ça fait partie de la narcissisation, de l'individualisme, du fait que les individus cessent de se percevoir comme des héritiers, comme des maillons de longues chaînes de transmission, mais se perçoivent comme des individus qui ont le libre choix d'une sorte de supermarché des spiritualités, qui prennent des bouts de ci, qui jettent cela, etc. Enfin, non, je pense que d'une certaine façon, on ne peut pas être nationaliste sans. Enfin, Barrès disait, définit le nationalisme comme la prise de conscience d'un déterminisme. Je pense qu'on pourrait, en quelque sorte, plutôt dire le nationalisme, c'est assumer un héritage. Hein, assumer un héritage et s'assumer comme héritier. C'est-à-dire vraiment se comprendre soi-même comme échappant à sa propre décision purement individuelle, comme n'étant pas un être, comme une espèce d'atome qui se balade comme ça, séparé, mais vraiment comme le prolongement d'une histoire ancienne. Et à cet égard, je pense qu'il ne s'agit pas donc pour l'individu de choisir entre sa liberté ou son affirmation d'un côté. Et puis de l'autre, la soumission à une tradition, à un ordre, il s'agit de comprendre pour lui que son épanouissement, c'est ce que Barrès a bien compris, passe par le fait de remettre comment dire, ses pieds dans les traces de ses ancêtres. Ouais, là encore, il faudrait que je réponde de deux façons, c'est-à-dire. Ce que je proposais à l'époque à égalité et conciliation et ce que j'ai mis en œuvre moi dans ma section normande, disons, rouennaise, caennaise, enfin, havraise, principalement rouennaise, et puis d'autre part ce que j'en pense aujourd'hui. Bon, à l'époque, j'ai appliqué un mode d'organisation carrément bolchevique, hein, faut dire qu'elles sont, avec en gros les adhérents étaient réunis une fois par semaine. Pas à l'échelle de la région, bien sûr, on avait des réunions régionales, mais rarement, deux fois par an, ou comme ça, de temps en temps. Mais autrement, on se réunissait par groupe. Alors, au bout d'un temps, par exemple, le groupe Rouennais, je l'ai coupé en trois, ça fait trois cellules qui fonctionnaient chacune de son côté. Et bon, les modalités en détail, j'ai expliqué d'ailleurs lors de la deuxième université d'été d'égalité et réconciliation, on trouve ça sur Internet, je ne sais pas trop où. Enfin, ça n'a pas été complètement supprimé, c'est plus sur le forum, le site d'égalité et réconciliation, mais c'est sur une espèce de site miroir qui a été fabriqué par je ne sais qui, je ne sais quand. Bref. Voilà, donc là, je pourrais détailler, je ne sais pas si c'est nécessaire. De fait, ça fonctionnait très bien. Enfin, on avait un système de discussion dans lequel, les décisions étaient toujours prises à l'unanimité. En réalité, il n'y avait pas de. Enfin, il y avait parfois des petits différends, mais on n'a jamais eu à choisir entre un fonctionnement autoritaire et un fonctionnement libertaire, en quelque sorte. On avait un fonctionnement, une fois que la discussion avait lieu jusqu'au bout et de façon ouverte, en laissant vraiment chacun s'exprimer, en poussant même chacun à s'exprimer, en évitant que la parole soit monopolisée par certains, la décision se prenait assez naturellement, on n'avait pas de problème. Alors aujourd'hui, je prendrais les choses par un autre bout parce que je me dis, enfin, vu la décomposition globale actuelle, vu le fait que je vois plus comment dire, de perspective dans aucune organisation existante, je me dis qu'en fait, peut-être le plus judicieux, ce serait de reprendre les choses à l'échelon très local, c'est-à-dire vraiment avec en même temps une perspective de réenracinement régional, local, etc. Et comment dire, et donc de fédérer ces groupes-là de façon relativement libre. Enfin, en quelque sorte, ça c'est dans la troisième partie, je crois, de ma conférence sur le bien commun, là, dont je vous ai mis les liens des deux premières parties, un qui est sur mon blog. J'ai essayé d'expliquer ça, il me semble que c'est relativement clair. Enfin, la reconstitution des corps intermédiaires, pour reprendre des thèmes de la pensée maurrassienne. Mais si vous voulez, Maurras, il considère les corps intermédiaires encore existants, ce qu'il appelle le pays réel. Hein, souvent, c'est mal compris, ces histoires pays réel, pays légal. Hein, on croit que ça veut dire les dominés et les dominants, ou je ne sais quoi. En fait, le pays réel, pour Maurras, c'est vraiment la société organique, avec ses corps intermédiaires, qui, pour lui, subsistait encore à son époque, sous le vernis républicain, en quelque sorte, pour, comment dire, pour ce qui est pour notre époque, je pense qu'il faut reconstruire les corps intermédiaires à partir de ce qui reste, la famille par exemple, et puis sinon, voilà, vraiment de bas en haut et progressivement. Alors évidemment, c'est très difficile, c'est très long, c'est très compliqué, malheureusement dans une situation de crise urgente, et je ne sais pas si le temps dont on aurait besoin pour réussir cet objectif, de façon souple et intelligente, serait, comment dire, enfin, si on en dispose vraiment. Voilà. Donc là, il faut peut-être lire ou relire le fameux bouquin de Michel Drac et ses amis, Eucalypse, là, qui donne avec la fraction une espèce de modèle comme ça de forme minimale de solidarité indispensable. Ah, les références sur le syndicalisme révolutionnaire, mais il faut lire Sorel. Sorel avec un E, hein.
Voilà, alors moi je voudrais t'orienter, mais bon, c'est une supposition, c'est une piste, hein, c'est pas, t'es pas obligé de la suivre. Et c'est un retour un petit peu à un aspect théorique aussi, c'est effectivement, tu parles de corps politique, alors tu n'es pas, évidemment pas le premier à parler de corps politique, c'est effectivement un truc qui est employé depuis le début depuis l'Antiquité, en comparant le corps organique, comment dire, de l'État au corps physique, et en. Supposons que donc les citoyens ou les parties de ce corps politique comparés ou identifiés à des parties du corps humain, donc des choses extrêmement solidaires. Donc alors effectivement, c'est de bon ton de parler de corps politique, même chez Rousseau, etc., donc dans la pensée plus tardive européenne. Et avec la dislocation actuelle, la décadence morale et économique actuelle et la narcissisation dont tu parlais, peut-on encore aujourd'hui parler de corps politique finalement?
Alors justement, enfin, la bizarrerie de mon approche, je ne sais pas si ça se voit à lire Refaire la France parce que j'ai essayé, enfin, il paraît que le livre est difficile à lire un petit peu, mais enfin, moi j'ai essayé de le faire aussi simple que possible, je veux dire, je ne l'ai pas surchargé de références savantes ou de spéculations un peu techniques comme j'en fais parfois sur mon blog. En fait, en gros, on pourrait dire que c'est un peu à la jonction de Maurras et de Spinoza, ce qui évidemment fait un croisement un peu marrant, dans la mesure où Spinoza, c'est l'auteur maintenant fétiche d'abord de certains marxistes et d'autre part de certains anarchistes ou autonomes, etc. Je trouve Spinoza extrêmement intéressant parce que dans Spinoza, il y a des modèles pour penser pas seulement des corps existants, parce que ce à partir de quoi raisonne Maurras, c'est en quelque sorte des corps que l'on trouve existants, comme des corporations, etc. Et des corps de ce genre, effectivement, il n'y en a pratiquement plus. Il reste que le corps, enfin, à l'état très abîmé, il reste que la famille, qui est le corps intermédiaire minimum entre l'individu et l'état. Mais il n'y a plus rien de tel, effectivement, qu'un état organique avec des corps, c'est-à-dire en quelque sorte, on est plutôt une espèce, si on veut, on pourrait parler d'une sorte de société minérale ou de société complètement liquidée, dans laquelle il n'y a plus de cette sorte d'architecture structurée de corps intermédiaires. Enfin, bon, je simplifie, je caricature, on ne peut pas rentrer dans les détails ici. Donc ce qui m'intéresse, moi, c'est la façon dont Spinoza conçoit la construction de corps. Alors, vous savez peut-être que Spinoza dit dans l'éthique. Je cite de mémoire, hein, rien n'est plus utile à un homme qui veut vivre sous la conduite de la raison qu'un autre homme. Je ne me rappelle plus où c'est exactement, mais cette formule veut dire chez Spinoza, que le renforcement de l'individu, renforcement, c'est-à-dire techniquement l'augmentation de sa puissance d'agir, de sentir et de penser, est favorisé à l'extrême par l'amitié, par la création de groupes, donc de 2, de 3, de 10, n'importe, l'individu qui se trouve, enfin, dont l'agencement permet à chacun de se renforcer à partir de ce qu'il est. Et là, on a une conception qui est très intéressante parce que le groupe, le petit groupe, en fait, est lui-même organique. C'est-à-dire, Spinoza ne dit pas que qui se ressemble s'assemble et que les individus vont former ensemble un bloc parce qu'ils sont homogènes, parce qu'ils sont similaires. Mais ils vont bien davantage former un bloc parce que, comme les rouages d'une machine, ils sont eux-mêmes complémentaires les uns des autres et ainsi vont dégager une puissance collective, celle de la machine dans mon exemple. À cette différence près que si la structure est bien faite pour les spinozistes, notamment ça c'est une lecture deleuzienne hein, de Spinoza, eh bien les individus eux-mêmes vont se trouver renforcés dans leur puissance d'agir, de sentir et de penser par la participation à ce collectif. Alors ça c'est un truc qui a servi en gros aux penseurs libertaires des années 60, 70, etc. De penser des communautés, de penser des collectifs, etc., etc. Eh bien, retournons contre les penseurs de la décomposition, contre les penseurs libertaires de la dislocation, contre les penseurs de la société contre l'État, comme on disait à l'époque. Retournons cette construction qui est très intéressante et très intelligente. Et au lieu d'en faire la charte pour la constitution d'organisations libertaires et liquidatrices, faisons-en la charte de l'organisation, enfin de la formation d'organisations tournées vers le réenracinement et donc l'épanouissement des individus par le réenracinement. Voilà. Donc effectivement, je vois, comme dit Amfortas, ça c'est chez Deleuze une sorte de synthèse un peu bizarre de Spinoza et de Nietzsche. C'est vrai, bon, on ne va pas rentrer dans des considérations trop techniques. S'il y en a, ça, il y a certainement certains d'entre nous qui ne sont pas très férus de philosophie et que ça ennuierait. Mais de fait, chez Nietzsche, il y a une dénonciation de l'État. Chez Spinoza, non. Chez Spinoza, il y a une dénonce, enfin, il y a l'idée, il y a les modèles pour penser des formes de société qui, au lieu d'être favorables au développement des individus, les écraseraient, par exemple, en obtenant la cohésion par la peur, par la crainte. Et donc, ainsi, on aurait des sociétés dans lesquelles les individus, comment, en quelque sorte, feraient bloc parce qu'ils, enfin, sur la base de passions essentiellement tristes, comme dirait Spinoza, c'est-à-dire à base de haine et de crainte. Et à cet égard, ces sociétés sont dites par Spinoza faibles. C'est-à-dire, paradoxalement, elles paraissent fortes, hein, par des systèmes totalitaires, etc. Ça paraît fort parce qu'on a l'impression d'une grande cohésion. Mais en fait, la cohésion de l'ensemble est obtenue par l'affaiblissement des parties qu'ils contiennent, par la terreur, par l'abrutissement, l'obscurantisme, etc. Ça, c'est un dysfonctionnement du politique pour Spinoza. C'est ce type de considération-là que Nietzsche considère comme plus ou moins fatale. C'est-à-dire, il considère en somme que les puissants au sens politique ne sont jamais que des impuissants, c'est-à-dire des êtres du ressentiment, des individus en qui la puissance est coupée de ce qu'elle peut, comme il dit, autrement dit, des malades, qui sont même des faibles, et dont l'affirmation du pouvoir consiste à affaiblir les autres. Je ne pense pas, je pense que là-dessus Nietzsche a tort, je pense que ce n'est pas une fatalité du politique, même si c'est généralement le cas. Et je pense qu'à cet égard, même si notre société peut se décrire exactement comme Nietzsche l'a décrit dans sa critique de l'État, ce n'est pas une fatalité. Et que à mon sens, justement, l'idée d'une société organique, ce n'est pas une société forcément qu'on trouve toute organisée, comme si elle était naturellement donnée. C'est quand même, c'est un peu un Léviathan, au sens de Hobbes, c'est un organisme artificiel, mais on n'est pas obligé de le construire aussi mal que dans la politique de Hobbes. On peut le construire en ayant en tête Maurras, en ayant en tête Barrès, en ayant en tête des questions de, disons, d'harmonie sociale et d'intelligence économique aussi. Moi, je ne sais pas si c'est une bonne réponse.
C'est une bonne réponse, merci, merci d'avoir répondu. Alors c'est vrai que tu parlais du syndicalisme révolutionnaire,
Je te coupe un petit peu un portail, il y a une question de Chelouk, voilà, qui était sur le chat.
Question que j'ai lue moi-même. Alors je
Ouais.
sais pas si ça peut considérer vraiment le. C'est à Sébastien de Rouen de peut-être de considérer si ça rentre dans le sujet
Exactement.
ou pas.
Je vais répondre en un mot. Il est tout à fait possible que nous n'ayons qu'une prise très très limitée sur la situation sociale. En effet, on pourrait se rabattre sur un certain défaitisme. Ma réponse à ça, c'est d'abord qu'en tant que enfin, défaitisme ou disons une certaine l'acceptation d'une certaine impuissance, en tout cas politique. Ma réponse à ça, c'est qu'en tant qu'être humain, on peut difficilement faire cela sans se renoncer à soi-même, sans se mutiler en quelque sorte soi-même. Donc il faut faire comme si on y pouvait quelque chose. Et puis je pense surtout la réponse moins bête, enfin je veux dire moins oui, moins bête, à cette, enfin, oui, plus constructive à cette remarque, c'est qu'il faut construire l'organisation politique de telle sorte que quand bien même son résultat politique serait faible, il y aurait un résultat favorable au niveau, si je puis dire, des individus qui la composent. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense, par exemple, que la section d'égalité et réconciliation que j'ai animée en Normandie a permis un épanouissement certain. Je veux dire, quand je parle d'épanouissement, ce n'est pas juste au sens du plaisir ou je ne sais quoi, mais un véritable renforcement intellectuel, moral, humain, d'une partie non négligeable des individus qui nous y ont rejoints. Et je pense que c'est vrai pour l'égalité et la conciliation. Moi, je peux dire honnêtement, même si la fin a été infecte, humainement assez pénible, mais enfin, que pour ma part, je ressors très renforcé de l'expérience égalité et réconciliation. J'en suis sorti à partir du moment où il m'a semblé que le dispositif ne me permettrait plus du tout de poursuivre ce développement dans son sein. Et là, c'est encore l'histoire de la narcissisation. On n'a pas à opposer la lutte politique d'un côté et le développement de personnel de l'autre. Je pense que si l'organisation est bien faite, on peut combiner les deux. Je pense qu'on sera d'autant plus efficace politiquement que les individus qui composent l'organisation y seront plus heureux et plus renforcés, mais que cette façon-là de considérer les choses fait que quand bien même l'organisation n'obtiendrait pas les fruits qu'on peut en espérer sur le plan politique ou social, malgré tout, elle aurait elle-même une très grande utilité en contribuant à redresser les individus qui la composent. Voilà, c'est ma réponse.
D'accord, bah merci. Alors moi, s'il n'y a pas d'autres questions, sinon moi je laisse la parole, hein, parce que je parle déjà beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, ce que je voulais dire, c'est effectivement quand on réagit comme ça, ou quand on développe sur refaire la France, donc on s'attache évidemment à développer un symptôme, enfin où sont les symptômes donc la narcissisation, quels sont les phénomènes actuels de décadence, etc. Mais on essaie de répondre aussi en général, du moins c'est une question qui sont posées pas mal de gens, genre comme Carl Schmitt par exemple. Quand on interprète en termes moraux, enfin, en termes de hiérarchie du moins, c'est-à-dire il y a une décadence, que ce soit économique ou morale, on cherche aussi à savoir souvent à partir de quand le ver est dans le fruit. Alors, est-ce que je pense que c'est une question que tu t'es posée, c'est difficile d'y trouver une réponse sans doute. Est-ce que tu pourrais nous dire un mot là-dessus, s'il te plaît?
En fait, j'ai un goût assez limité pour l'analyse critique. Je trouve qu'il y a énormément d'analyses intelligentes qui ont été faites de la situation et des causes qui nous y ont menés. Et bon, bah après, chacun sa tournure d'esprit ou sa forme d'intelligence ou je ne sais quoi. Pour ma part, je n'ai pas. Enfin, je trouve assez déprimante l'accumulation d'analyses critiques, voire la recherche des causes au-delà du besoin. C'est-à-dire, je pense qu'il faut avoir une approche en quelque sorte radicale, à se contenter d'identifier les causes jusqu'au point qui est nécessaire pour avoir prise sur elles. Et puis ensuite, ce qui importe, c'est de proposer un traitement. Je trouve quand même qu'on croule sous les discours d'analyse critique intelligents. Mais par exemple, Alain Soral en a produit une grande quantité qui sont bons. Enfin, une fois qu'on a fait ça, si on ne propose rien, c'est extrêmement déprimant. C'est-à-dire qu'il est de toute première importance, à mon avis, vraiment enfin, il était important de proposer une issue. Le texte avait vraiment été fait à la base. Bon, il n'aurait pas été fait comme ça s'il avait été peut-être complètement pour égalité et réconciliation, mais il a été fait pour égalité et réconciliation. D'ailleurs, Alain Soral l'avait lu intégralement avant, puisqu'on devait avoir n'est-ce pas, un congrès, hein, et donc il avait dit que c'était très bon. Et en fait, c'était justement fait pour être un complément de son discours. Donc, pour ma part, je ne me suis pas tellement occupé de rechercher les causes très loin. Je pense qu'elles sont multiples, combinées, qu'il y a un problème de la nature et de la dynamique même du capitalisme, un problème, un autre problème, enfin, il y a toutes sortes de choses, quoi, enfin, qui sont mutuellement cause et effet. Donc, c'est un écheveau de causes et conditions extrêmement complexes, et en plus circulaires, enfin, où l'effet renforce sa propre cause, et ainsi de suite. Et donc moi, ce que j'ai vraiment voulu faire, c'est tâcher de faire des propositions. Il m'a semblé que c'est ce qui manquait vraiment le plus à notre époque.
J'ai une question, moi, à propos de ton livre, donc ton manifeste, je l'ai lu, et à un moment donné, tu parles justement de refaire des assemblées populaires. Donc c'est vraiment de remettre de la démocratie, de donner le pouvoir au peuple. Et tu dis, c'est un peu comme avant, donc comme en 1848. Est-ce que tu pourrais plus expliquer en fait ton idée?
Ah oui, ça c'est, je crois que c'est un des rares côtés vraiment. Enfin, il y a quelques, disons, dans Refaire la France, il y a quelques propositions politiques vraiment originales. Pas beaucoup. C'est-à-dire que pour une bonne part, ceux qui ont suivi toute la cuisine, je crois qu'il y a au moins quelqu'un ici qui a dû suivre toute la cuisine de la fabrication de Refaire la France, savent qu'on était parti en fait du programme programme électoral pour la présidentielle du Front National de l'élection de 2000. Non, pas de 2002. Oh, je me rappelle plus. De 2002, si je crois. Voilà, non, on lui demandera tout à l'heure. Enfin, je l'ai encore. Non, non, pas le programme de 2007. Je crois qu'on était parti du programme de 2002, justement. Il me semble. Je l'ai encore dans un coin, mais je crois que c'était ça. On avait celui de 2007 sous la main, mais c'est celui de 2002 qui a servi de point de départ. C'est-à-dire que j'ai en fait j'ai épluché ce programme, j'ai fait des notes critiques qui ont ensuite été envoyées à qui voulait, enfin aux sections d'égalité et réconciliation, à l'ensemble de rapporteurs, etc., etc. Et donc il y a un certain nombre de points qui ne sont pas originaux parce qu'on n'a pas cru utile de développer des doctrines originales sur des questions sur lesquelles on était d'accord. Hein. Et d'ailleurs, un certain nombre de chapitres sont assez faibles parce qu'au fond, ce sont des abrégés j'allais dire, du programme du Front, sans rien y apporter. Comme on n'avait rien de spécial à dire, on sait pas, vous connaissez le bon principe, quand on n'a rien à dire, on n'est pas obligé de le faire savoir. Voilà. Mais en revanche, la conception de la structure de l'État, disons, est, à mon avis, assez originale, et puis, je dois dire, assez personnelle, parce que je ne sais même pas à quel point j'aurais été suivi sur ces points-là. Ah, il y a l'histoire de l'Assemblée représentative populaire. J'ai beaucoup réfléchi sur deux épisodes historiques, enfin, sur un ensemble de choses, mais disons, d'une part, la fameuse comment dire, Assemblée enfin, des États généraux en 1789. Et d'autre part, la commune de 1870. Ce n'est pas 48 dont je parle, c'est 1870-71, hein, la commune. Ce qui m'a semblé vraiment intéressant, mais en fait, donc, et j'ai bien aimé prendre ces deux exemples-là, puisque c'est d'un côté prendre des institutions de l'Ancien Régime, et de l'autre prendre ce qu'on pourrait regarder comme comment dire, la construction politique la plus audacieuse, dans le sens ultra-démocratique socialiste libertaire qui ait pu exister en France, même si c'est de façon très 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 transitoire. Il m'a semblé que si on organisait, enfin si on avait une assemblée représentative populaire, dont le principe un peu paradoxal, c'est une représentation en quelque sorte proportionnelle comment dire, à la, comment dire ça, à la, comment dire. En fait, c'est parti d'une réflexion de Seurat qui était tout à fait de bon sens, qui se moquait de la parité homme-femme dans les élections, et qui disait, mais en fait, enfin, il esquissait juste l'idée, il n'en faisait rien, il disait, la seule parité qui vaudrait serait une parité sociale, c'est-à-dire la représentation des différentes catégories sociales au prorata de leur poids numérique dans la société réelle. Bon, et j'ai trouvé, enfin, j'ai saisi l'idée au fait, je l'ai développée jusqu'au bout, et je me suis dit, voilà, il faudrait. En face d'un État au sens fort que je conçois implicitement de façon assez maurrassienne. Alors, dans le texte, je parle de septennat, etc. Bon, ça, c'était Marc Georges qui le voulait aussi. Hein. Je reste dans une hypothèse électorale, présidentielle, etc. Enfin, d'un côté, on pensait une espèce de pouvoir d'État relativement fort et relativement absolu, au sens relativement détaché de la nécessité de se présenter tout le temps à des élections. Mais en face de ce pouvoir relativement stable et relativement absolu ou indépendant, ce qu'on Parce que j'ai pensé, hein, c'était une assemblée intégrale, enfin, véritablement représentative de tout l'ensemble de la population française, dont il m'a semblé, hein, un petit peu comme l'assemblée du tiers, en fait, du tiers-État, l'ancien régime, il m'a semblé qu'une fois réunie, et même si on ne lui donnait pas de fonction législative, elle aurait un poids absolument extraordinaire comme porte-parole sincère des aspirations, des demandes, des besoins réels du peuple français, infiniment mieux que cette assemblée de bourgeois et de professions libérales, etc., etc., qui constituent aujourd'hui les assemblées, enfin l'Assemblée nationale et le Sénat. Voilà, enfin, après dans le détail c'est un peu compliqué, mais c'est ça l'idée.
Question de Pascal, merci Sébastien.
Si ça ressemble un peu à la proposition d'Étienne Chouard, le tirage au sort pour désigner les parlementaires? Non, parce qu'en fait, voilà, oui et non, enfin, le tirage au sort, oui, aura peut-être l'avantage que je cherche. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que c'est une remarque que fait Gollnisch dans sa préface, Bruno Gollnisch, hein, qui, je crois qu'il parle de ça, quand on m'a rappelé. Non, moi, j'avais vraiment. Ce qui m'a inspiré, c'est ma pratique en fait du syndicalisme. J'ai été militant et même responsable syndical, et j'ai eu l'occasion de voir dans le cadre syndical des gens assez peu instruits à la base, qui avaient développé au fil du temps une grande compétence dans leur domaine professionnel, je veux dire dans le domaine de la connaissance des droits et des obligations, etc., de leur profession particulière, et qui en même temps étaient en quelque sorte sélectionnés par leur pareil, quoi, c'est-à-dire les gens qui travaillaient comme eux de la même façon, pour leur qualité morale, pour leur honnêteté, pour leur droiture, comme digne de les représenter. Ce type de personnage m'intéresse particulièrement, c'est-à-dire des individus qui sont issus de toutes les catégories de la population, qui ne sont pas donc qui ont acquis une compétence forte sur le tas, mais qui ne sont pas pour autant devenus, enfin passés dans une autre catégorie sociale, etc. Oui, ils connaissent par cœur leur convention collective, mais ça n'est pas tout. Hein, j'ai quand même vu des gens qui, à partir de là, développaient une réflexion politique infiniment plus saine et, à mon avis, infiniment plus forte et plus sensée que celle de politiciens de profession. Parce que ça reste des gens du peuple, d'une part, et parce que ça reste des gens qui ont avant tout à se préoccuper de la résolution de problèmes qui les concernent eux-mêmes, personnellement et dans leur propre groupe social, et donc qui se rapportent à des choses qu'ils manient tous les jours, hein, bien sûr. Et donc, c'est plutôt ce type d'être humain-là, si je puis dire, que j'aurais vraiment, que je m'imaginais que ce dispositif-là permettrait de valoriser. Oui, il y a une question là qui est par écrit, mais. Vous savez, ce serait mieux que chacun prenne la parole pour poser ses questions, puisque autrement il faut que je les lise à chaque fois. Quelle forme revêt l'autorité pour une organisation efficace à moyen long terme en l'état? Je trouve que c'est une question beaucoup trop générale pour qu'on puisse lui donner une réponse, comment dire, générale. Je pense en réalité que si on parle d'une organisation politique en bas, il faut un équilibre très harmonieux entre l'autorité et la liberté. Ce que par exemple moi j'ai trouvé tout à fait facile à faire fonctionner dans ma section d'égalité et réconciliation en Normandie à l'époque, c'est-à-dire quand on est d'ores et déjà réunis avec des objectifs communs et une compréhension commune de base, la décision à propos de ce qu'il y a à faire peut parfaitement, une fois les choses bien expliquées, être prise complètement à l'unanimité, et ensuite la discipline être vraiment efficace dès lors que il y a une décision ferme qui a été prise clairement sur des bases absolument expliquées. Il n'y a pas besoin d'autoritarisme. Il y a d'autant plus besoin d'autoritarisme qu'on a entretenu les gens dans leur imbécilité. Par exemple, qu'on se sert de militants comme de simples colleurs d'affiches ou je ne sais quoi. Si les militants sont bien formés, si on les tient au courant de tout ce qui les regarde, eh bien leur adhésion à l'autorité est naturelle et l'autorité est légitime. Bon, après. Je ne dis pas. Enfin, je pense que pour construire une organisation véritablement politique, efficace, il faut, heureusement ou malheureusement, un chef, Et c'est tout à fait dans cet esprit que pour ma part, à l'époque, j'avais rejoint Égalité et Réconciliation, c'est-à-dire qu'il me semblait qu'Alain Soral avait tout à fait les qualités, je ne dis pas toutes les qualités d'un chef, loin s'en faut, mais qu'il avait en revanche les qualités de, disons, de figure de proue charismatique, derrière qui un regroupement politique efficace pouvait tout à fait se faire. Voilà, mais après, je ne sais pas si c'est une question d'autorité, parce que de fait, l'autorité réelle dans Égalité et Réconciliation à l'époque, où je m'y trouvais, appartenait, je dirais, à. Comment, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, enfin, en très grande partie à Marc Georges, puisqu'il vient nous rejoindre, et puis plus généralement au Bureau national, avec qui, enfin, où étaient prises beaucoup de décisions. Et en somme, cette autorité n'avait pas tellement d'occasion de s'exercer de façon autoritaire, sauf vraiment pour éliminer, enfin, pour mettre un terme ferme à des déviations complètement aberrantes. C'est tout. Et de fait, par exemple, pour ce qui est de l'autorité, moi, je crois, dans le temps où j'étais à Égalité et Réconciliation, et responsable de la section normande, je crois avoir fait virer deux personnes. Marc se rappelle peut-être. Je crois avoir fait virer deux personnes. C'est-à-dire qu'il y a des cas, effectivement, où il m'a semblé nécessaire d'avoir une intervention de type autoritaire pour mettre terme à des situations complètement aberrantes et ingérables. C'est tout. Après, j'ai pas d'idée. Enfin, je trouve la question tellement générale que je sais pas très bien par quel bout la prendre. En fait, je pense que la question de l'autorité peut pas être traitée plus d'une pièce. Par exemple, j'ai une conception assez autoritaire de la religion, par exemple. Je pense pas que dans une église, il y a énormément d'intérêt à organiser la démocratie sur des questions doctrinales, par exemple, enfin, complètement. Ma position sur la démocratie dans l'État, ma position sur la démocratie dans l'organisation politique, et ça, tout ça, c'est extrêmement variable. Je pense qu'on ne peut pas répondre à la question toute d'une pièce, il faudrait la couper en petits morceaux, et qu'à bien des égards, en même temps, par exemple, si on parle vraiment de l'organisation au sens organisation politique de combat qu'il conviendrait d'essayer de constituer, puisque on voit pas encore l'embryon aujourd'hui, ça dépend énormément avec quoi, à partir de quoi, dans quelles circonstances on la construit. Évidemment, plus le degré de maturité, de formation, de responsabilité, de compétence des individus est élevé, plus on arrive à organiser le groupe pour qu'il élabore ensemble les solutions qui l'intéressent, etc., moins l'autorité est nécessaire. Après, en même temps, on peut aussi avoir une meute, je sais pas moi. Une meute de skinhead, on va pas discuter avec eux. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, si les gens sont disposés à une discipline de faire, ils n'ont pas envie de comprendre, mais seulement de faire ce qu'un chef charismatique et intelligent, faut-il espérer, leur dit de faire, ça se gère pas de la même façon. Je ne sais pas quoi dire.
Je sais pas si ça fonctionne ou pas.
Oui, ça
Ah oui, on
fonctionne.
t'entend.
Alors bonsoir à tous. Écoutez, je participe à votre conversation, pardon, depuis tout à l'heure via le chat. Et là, vous abordiez le sujet de l'autorité, quoi. Et je pense que l'autorité, comme je l'indiquais, c'est très subjectif, quoi. Je veux dire, si demain vous êtes dans la rue et que vous croisez un gendarme ou deux qui vous demandent de les assister, instinctivement, vous aurez tendance à acquiescer et à les aider. Parce qu'ils ont un aspect représentatif de ce que conventionnellement on a tous admis comme étant un des éléments liés à l'autorité. C'est pareil avec les toubibs, c'est pareil avec pas mal de personnes en fait. Il y a des tests très très poussés qui ont été faits en la matière pour essayer de mieux comprendre ces mécanismes. Et les résultats sont affligeants, affligeants. La capacité des simples individus à se transformer en cerbères redoutables pour le compte d'une autorité qu'ils considéreront comme valide, c'est là que se passe toute la partie subjective de la chose, on ne peut pas grand-chose, quoi. Je pense que les systèmes politiques participent à un maintien en bon ordre et en rang serré de toutes les tendances émotionnelles, parce qu'il y a a priori rien d'autre chez l'homme que de l'émotion. Et que pour ce faire, eh ben, on a des. Depuis la gauche à la droite, en passant par toutes les tendances politiques, Et les nouvelles époques, nouvelles tendances, nouveaux propos, nouveaux discours, nouveaux leaders, nouveaux cadres, nouvelles structures, mais toujours ce même principe de fond, d'accompagner. Pas d'électrons libres, d'éléments dispersés qui deviendraient incontrôlables et autres. Rien que le fait qu'on conçoive la vie politique à travers le filtre des partis, des systèmes et tout ça, c'est déjà un des éléments qui entame le capital de réussite, tout un changement, quoi. Moi, à mon petit niveau, j'ai l'ensemble de ce que j'ai pu voir du monde et j'ai découvert que il semble qu'il n'y ait qu'un seul et unique programme politique sur toute cette planète qui se résume en simplement la corruption, quoi. Où on s'en rend compte, c'est
Ouais.
très
Si,
évident.
si on part dans ce sens-là, on va nulle part. Hein. C'est-à-dire que là, évidemment, c'est du pur et simple défaitisme. C'est où j'ai une vision. Finalement, qu'est-ce qu'il y a en creux dans cette façon-là de parler? C'est la perspective d'une destruction de toute autorité qui est au fond le programme des libertaires qui ont servi involontairement la soupe aux libéraux, comme là, pour le compte, Alain Soral, après d'autres, hein, mais l'a très bien dit. Et justement, là, le problème, c'est qu'on est obligé, on ne peut pas se contenter de la critique abstraite et générale de l'autorité. Par exemple, nous sommes forcément. Enfin, nous sommes nécessairement favorables à l'autorité dans la famille, par exemple. Hein, nous voyons bien que l'autorité ne peut pas être partagée entre les parents et les enfants, etc. Vous voyez bien qu'il y a une responsabilité des parents d'éduquer leurs enfants. Et de ce point de vue, on ne peut pas, comment dire, on peut pas considérer l'autorité en général comme une espèce d'entité globale et générale qui serait plutôt néfaste et généralement prostituée par la corruption, etc. Il faut quand même affiner, réfléchir, etc. Nous, on est quand même dans une perspective qui est la reconstruction de quelque chose qui pourrait permettre à la France de demain d'exister, à l'Europe, à l'humanité, pourquoi pas. Enfin, on peut exporter le modèle. Et dans une situation à la fois de liquidation de toutes les autorités légitimes, remplacées par des autorités malsaines, fantoches, etc., à la fois faibles et toxiques. Je pense qu'on ne peut pas complètement raisonner comme les anarchistes des années 60, hein, 70.
Il y a Chaman qui avait une question, apparemment c'est une précision sur la réflexion.
Oui, je vais prendre la parole puisque tu m'y invites, merci. Je voulais réagir en fait par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Sébastien, sur la religion, le supermarché, etc. En disant que justement, ça concerne l'autorité, que la reconsidération de l'autorité, qui n'est pas forcément une destruction de l'autorité, hein, peut parfois être justifiée. Et qu'on a notamment cette justification dans le cadre de la religion catholique, si effectivement la France est historiquement catholique, un catholique et chrétien. Et sans vouloir faire comment dirais-je, de la théologie, la redéfinition de l'autorité se justifie parfois, et on le voit très bien, bon, si, pour les chrétiens, qui sont censés suivre en principe étymologiquement l'enseignement du Christ, et je cite saint Matthieu en 6,5, pour dire, qui dit, en parlant de la prière en secret, et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, trois petits points, à se camper dans les synagogues et les carrefours. Là, s'il n'est pas question, par exemple, de détruire les églises ou quoi que ce soit, il est clair que ce qui a été fait de l'enseignement a été transformé par l'autorité, a été dévié, et que ça fait partie d'un des cas où l'autorité peut être remise en question. Et sur l'autorité, il faut aussi se poser la question, en plus des échelles d'autorité, mais ça, je pense que tu en as bien conscience, tu parlais de la famille, justement, et d'ailleurs une destruction aussi du pater, hein, qui est assez catastrophique au niveau de l'autorité familiale, c'est que l'autorité dans une nation de 60 millions, enfin 65 millions de personnes, c'est assez délicat à appliquer, d'autant plus dans un système démocratique, quand le pouvoir est partagé entre toutes les personnes, en l'occurrence en âge de voter, ce qui fait qu'une division du pouvoir, bah, rend les gens moins forts, ça c'est une évidence. Et en plus de cette division du pouvoir, il n'y a pas que division, il y a aussi passation du pouvoir dans le biais d'un système électoral, d'un jeu électoral. Donc, bon, déjà, précision par rapport au supermarché, je ne suis pas du tout dans cette optique, hein, je suis plutôt dans une optique de revoir en fait ce que les autorités ont imposé, sans parfois respecter la tradition, la vraie tradition pour le coup, hein, desquelles elles sont issues. et puis aussi justement sur l'application de l'autorité qui est assez complexe quand il y a énormément de monde, une grosse population, et que finalement cette autorité au final ne représente plus le pouvoir admis à chacun, voilà, à l'individualité, mais pas dans le sens péjoratif libertaire, ça n'a rien à voir.
Non, je ne réponds pas sur la première partie. Là, c'est une question de subjectivité. Je n'ai pas du tout envie d'avoir une discussion théologique. Enfin, si tu y tiens, on peut y aller. Hein. Enfin, c'est un peu compliqué. En revanche, sur le deuxième côté, je pense quand même qu'on pourrait peut-être essayer de prendre la question par le bout de, comment dire. De la reconstruction des corps intermédiaires et de l'idée que dans une société organique, c'est-à-dire réorganisée, puisqu'aujourd'hui elle est désorganisée, elle est atomisée, le problème de l'autorité, notamment de l'autorité centrale du pouvoir politique, se montre autrement. Parce que pour nous, le fait est qu'il y a d'un côté les individus complètement atomisés, les individus du dispositif libéral-libertaire, là, etc., tout ce qu'on veut, enfin, en tout cas, ou même du système républicain dans lequel un individu égale une voix, enfin, finalement, c'est que du quantitatif, oui, réorganiser, pas mal comme formule, hein. Et puis de l'autre côté, comme un pôle opposé, le pouvoir politique, qui peut être d'ailleurs tyrannique, puisqu'il n'a devant lui, même quand il est totalement élu, etc., que des individus. Éparpillé, ça c'est un thème très maurrassien, hein. La puissance tyrannique de l'État républicain, du fait qu'il a écrabouillé tous les corps intermédiaires qui, dans l'Ancien Régime, pouvaient résister au pouvoir de l'État. On voit bien quand on lit un petit peu d'histoire disons du 15e au 18e siècle, qu'il y a parfois enfin, c'est très compliqué la négociation de l'impôt, par exemple, puisqu'il y a des traditions régionales de payer un certain impôt, donc l'État renégocie avec les régions les montants de certains impôts, les régions acceptent, refusent, etc., etc. Bref, en fait, si on construit une société réorganisée, comme dit Amfortas, on peut supposer aussi qu'en fait l'autorité se monnaie à toutes sortes d'autres niveaux dans lesquels cette autorité est quand même plus légitime, c'est-à-dire elle n'a pas forcément à être élective, elle s'impose en quelque sorte. Tiens, pour reprendre le monde syndical dont je parlais tout à l'heure, moi j'en ai vu par exemple, des secrétaires départementaux de syndicats, Force ouvrière, CGT, etc., qui étaient vraiment légitimes, c'est-à-dire qu'en fait, virtuellement, leur mandat était remis en jeu tous les ans, mais enfin, c'était vraiment l'individu qui avait le plus de compétences, le plus de charisme, le plus d'expérience, qui était forcément, spontanément, naturellement le chef dans des organisations pourtant qui ont une structure très, comment dire ça, très libertaire en réalité, hein, celle de la charte d'Amiens. Je parle surtout de FO, hein, qui est plus fidèle à la charte d'Amiens que la CGT. Oui, effectivement, comment dire, l'idée du fédéralisme, c'est un peu ce que dit Chaman, n'est-ce pas? L'idée du fédéralisme, c'est comme une construction de bas en haut, en quelque sorte. De bas en haut. Hein, effectivement, on part bien de l'autorité à taille humaine, et idéalement, elle doit le rester au maximum. Enfin, même, évidemment, il n'y a pas que, comment dire ça? Quand on parle de corps intermédiaires, il n'y a pas que la partition géographique du territoire, en quelque sorte. Il y a aussi, je ne sais pas, par exemple, quelque chose comme, qu'est-ce qui reste comme vestige de corps intermédiaires dans la société actuelle, des trucs comme l'ordre des avocats, l'ordre des médecins, etc. On peut avoir comme ça des espèces d'organisations professionnelles. Il y a un texte de Maurras, alors je n'arrive plus à remettre la main dessus, mais je l'ai lu, où il parle de la CGT comme un corps intermédiaire, ça c'est marrant, ou comme une espèce d'entreprise de construction de corps intermédiaires. Il parle de la CGT de l'époque, et l'époque du texte fait que c'est la CGT pré-bolchévique, pré-communiste, c'est la CGT en fait syndicaliste révolutionnaire du tournant du 19e, 20e siècle.
Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Shaman? Sinon, j'ai une question, moi,
Non,
pour
moi ça va,
Sébastien.
j'ai rien à rajouter. Sébastien, ce qu'a dit Sébastien, enfin, je comprends qu'il ne veuille pas rentrer dans le débat théologique. Mais bon, que moi je trouve intéressant par rapport justement à la discussion de l'autorité, mais c'est pas grave. Et qu'il a bien, il a bien des, enfin, il a bien ensuite résumé ce que je pensais, notamment en parlant du fédéralisme. Voilà, donc c'était assez bien. Pas de problème pour moi.
Ok, nickel. Alors moi j'ai une petite question. Dans ton bouquin, tu parles un peu du service public. Donc apparemment qu'il faut renationaliser. Donc j'aimerais bien que tu précises un petit peu ce que tu comptes faire, en tout cas, quelle est ton idée là-dessus. Et après, tu parles, donc il y a un chapitre sur la redistribution, d'une part, des moyens de production réquisitionnés. Et donc, j'aimerais bien aussi que tu expliques cette partie-là parce qu'elle était très intéressante.
Ah oui, ça c'est le fruit de toute une discussion qu'on a eue pendant assez longtemps avec Michel Drac et Marc-Georges. En fait, enfin, ce serait long de l'expliquer, mais j'allais dire dans l'ancien Bureau national d'égalité et réconciliation, enfin, on ne va pas faire toute l'histoire, mais il y avait un pôle très nationalisateur, je dirais un peu socialiste. Dont j'étais le avec enfin disons on était très d'accord là-dessus avec Marc. On estimait en somme qu'il était absurde, enfin vu ce qui était devenu la puissance par exemple des grandes entreprises, etc. Enfin, il était à la fois nécessaire socialement et nécessaire politiquement, c'est-à-dire en termes justement de reprise en main par la nation de son propre destin, d'accorder, enfin de donner à l'État une puissance économique en quelque sorte propre. À quoi, moi personnellement, j'ai aussi ajouté quelques réflexions sur le fait que un État ayant une espèce d'assise économique propre aurait aussi moins besoin de l'impôt pour se financer. Mais ça, c'est une autre considération encore. Mais là-dessus, en fait, Michel Drac nous faisait des objections tout à fait intelligentes, comme toujours dans de Michel, qui étaient que c'est bien gentil de tout nationaliser. C'est bien gentil de faire une espèce d'économie mixte avec une part enfin, laissée à l'initiative privée et une autre part dans les mains de l'État. Mais qu'en même temps, évidemment, dans ce cas, tout le problème était que l'État pouvait aussi tomber dans de très mauvaises mains et l'histoire montre qu'il a raison. Enfin, caricaturait d'ailleurs ma position assez justement en disant que c'était la. Ma position, c'était la NEP à perpétuité, vous savez, la nouvelle politique économique là, de Lénine, quand il a eu renoncé à passer au socialisme à marche trop forcée. Et comment dire, il n'avait pas tort, c'était marrant comme formule, mais en même temps, son objection était juste. Et du coup, en y réfléchissant et puis en lisant mieux Maurras et d'autres auteurs, j'ai réfléchi au fait, comme moi, je me. Disons, une des raisons de mon ralliement ou une des motivations, je ne sais pas comment dire ça, de mon ralliement au journalisme, c'est vraiment une réflexion sur l'héritage, le patrimoine, la transmission. Bon. Et donc, j'ai bien lu ce que les auteurs, disons réactionnaires, enfin contre-révolutionnaires, expliquent sur le côté totalement pernicieux du code Napoléon, du code civil, donc de l'éparpillement des patrimoines de génération en génération, et sur la nécessité de reconstituer des pôles de propriété privée, familiale, pas énorme, mais suffisant, disons. Bref, pour revenir au sujet, la réponse qui s'imposait à la question de Michel, c'était, ah oui, pour comment faire une réforme sociale et politique aussi radicale que possible, mais aussi impossible que possible, si qui soit aussi difficile que possible de saloper, de détruire, de détourner. Et en somme, la bonne réponse, c'est faire quelque chose qu'on ne puisse pas défaire sans provoquer immédiatement à une révolution, enfin une révolte populaire énorme. Et donc, la bonne solution, qui d'ailleurs était en même temps judicieuse pour beaucoup de choses, c'était recréer des pôles de petite propriété privée en démantelant la grande propriété. Parce que la grande propriété, par exemple industrielle, etc., nationalisée, en effet, est dans les mains de l'État. On peut créer un monstrueux capitalisme d'État totalement exploiteur et abominable. Après, tout dépend dans les mains de qui est le pouvoir de l'État. Alors bon, l'Assemblée représentative populaire et d'autres dispositifs devaient permettre d'éviter ça. Mais enfin, dans le domaine du politique, on est toujours dans le provisoire. Mais pour revenir à la proposition, donc, à côté de la nationalisation que je persiste à penser nécessaire de certains domaines, on ne va pas privatiser en petits morceaux des centrales nucléaires, je veux dire, enfin, voilà, là, c'est pas du. Enfin, c'est un autre cas, mais c'est un bon exemple. Par exemple, on s'est dit qu'on pouvait, enfin, je me suis dit qu'on pouvait étendre le modèle de la réforme agraire, donc le modèle d'une distribution de la terre, à d'autres choses, par exemple le grand commerce, voilà, la grande distribution, pardon, et mais aussi toutes les chaînes, d'ailleurs j'y ai pensé depuis, toutes les chaînes de magasins, vous savez, ces horribles chaînes de magasins qu'on voit exactement les mêmes dans toutes les villes de France, etc. Bon, prenons la grande distribution. Par exemple, l'idée c'était comment dire, de découper en quelque sorte une grande surface en autant de petits magasins, pour ainsi dire, qui avaient, je ne dis pas d'employés, mais de rayons dans le magasin, et de les donner en propriété privée à chacun de, enfin par exemple au responsable du rayon, je ne sais quoi, enfin en tout cas à leurs propres employés. Et de cette façon-là, à la fois on brisait les reins à la grande distribution avec tout ce qu'elle a d'abominable et de toxique, on gardait l'avantage d'avoir des commerces rassemblés en un seul et même endroit comme une halle pour les consommateurs, et on recréait des pôles de petites propriétés privées. Alors, ce qu'il y a derrière, enfin ce que j'ai essayé de développer, alors là encore c'est une idée à moi, hein, c'est pas une idée égalité-réconciliation, je pense que c'était, il n'y a que moi qui l'ai défendu, en tout cas je l'ai développé jusqu'au bout en écrivant Refaire la France, c'était l'idée, enfin l'insistance sur une forme nouvelle de propriété, ou si on peut appeler ça un retour à d'anciennes formes de propriété, c'est-à-dire la propriété à l'ancienne, disons, c'est quand même comment dire, l'usufruit sans la nue propriété, c'est-à-dire le fait que le propriétaire ne peut pas aliéner son bien, il en est dépositaire. Charge à lui à le transmettre à la génération suivante, comme un patrimoine qu'il doit, comme on dit, gérer en bon père de famille, mais en tout cas qui est éventuellement inaliénable. Et bon, ça m'intéresse pour beaucoup de raisons de réfléchir à ces formes de propriété. Mais voilà, tout ça se combinait de façon relativement logique avec l'idée qu'une fois la grande surface, etc., toutes sortes de choses. Évidemment, l'industrie, c'est plus compliqué. L'agriculture, on ne peut pas faire comme ça jusqu'au bout parce que sinon, ça affaiblirait énormément la productivité de l'agriculture. Enfin, il faut réfléchir cas par cas. Mais en gros, c'était une forme de socialisation. Je veux dire. C'est du socialisme petit bourgeois, dire, elle est marxiste, c'est-à-dire enfin on dote chaque famille française, pour ainsi dire, d'une propriété qui la met à l'abri de la misère, mais en même temps dont elle a la charge de la gérer. Et voilà, bon, c'était un peu ça l'idée. C'est une idée, en effet, à la fois socialiste et nationale.
Merci. J'ai une autre question aussi sur ton chapitre police-justice. Donc toi, tu es un petit peu favorable pour que l'Assemblée populaire représentative puisse aussi prendre un petit peu les commandes au niveau de la justice. Et tu dis aussi qu'il est nécessaire d'augmenter le nombre de magistrats et autres fonctionnaires. Voilà, donc j'aimerais bien que tu en parles un petit peu aussi, quelle est plus précise ta pensée à ce niveau-là. Et j'ai lu aussi que tu étais pour la peine de mort. Alors pourquoi?
Alors, sur le premier point, ce chapitre-là, en fait, n'est pas une œuvre personnelle. Enfin, c'est une réécriture très légère qu'avait faite, je ne sais plus quel camarade d'ailleurs, Égalité et Réconciliation, que j'ai ensuite seulement re-rédigé d'un chapitre du programme du Front de 2001, là, enfin, pour l'élection présidentielle de 2002. Et bon, honnêtement, ça n'a vraiment pas grand-chose. Enfin, c'est juste, mais ça n'a pas grand-chose d'original. Moi, j'étais un peu frustré par une série de ces chapitres-là qu'on a quand même voulu mettre parce qu'il s'agissait malgré tout d'ouvrir une perspective et donc de décrire un petit peu ce qu'on voulait, pas la société idéale, pas une utopie, mais ce qu'on pouvait projeter, par exemple, ce qu'on aurait été amené à défendre si on s'était présenté à une élection. Donc, de ce fait-là, j'allais dire, ça ne va pas loin, ça va pas très loin. Pour ce qui est du rapport entre police, justice, assemblée régionale, excusez-moi, assemblée représentative populaire, en fait, en somme, je vois cette assemblée représentative populaire comme un peu une assemblée, comment dire ça, corporative, enfin, une assemblée de tous les corps de métier, etc., de toutes les catégories de la population, réunies non seulement nationalement, mais avant tout localement, enfin, régionalement. C'est l'idée, en gros, c'était celle d'une élection, d'ailleurs, à deux, ou pourquoi pas trois, plusieurs niveaux, je ne sais pas, un niveau local, par exemple régional, et puis un niveau national, où les assemblées régionales députant de leur sein, quelques-uns de leurs membres à l'Assemblée nationale. Mais qu'importe. Bon, pour la question du nombre de magistrats, c'est pareil, ça c'est des trucs qui viennent du programme du Front. Personnellement, je suis un petit peu perplexe. C'est-à-dire, je vois bien qu'aujourd'hui, la justice est complètement débordée. En même temps, dans quelle mesure c'est dû au manque de personnel et dans quelle mesure c'est dû à des dysfonctionnements ou des absurdités dans les missions qui sont attribuées ou les formes de procédure, je ne suis pas compétent pour le dire. Bon, dans un premier temps, il faudrait certainement davantage de magistrats, effectivement. Mais enfin bon, ça c'est à voir. Enfin, ça ne me tient pas plus à cœur que ça. Je ne suis pas spécialement l'auteur de cette proposition. Pour ce qui est de la peine de mort, en revanche, je pense que c'est très important. C'est très important, ne serait-ce que comme symbole absolu du fait que l'individu n'est pas une valeur absolue. L'homme, enfin l'homme des droits de l'homme, n'est pas une valeur absolue. L'homme ne vaut que par et dans son insertion dans la société. Alors, en dernière analyse, il y a une valeur peut-être sacrée de l'être humain d'un point de vue religieux ou spirituel. C'est une autre histoire. Le fait de couper la tête à un individu n'a jamais empêché de faire son salut, je pense. Ça n'a absolument... C'est un peu horrible à dire, mais ça n'a rien à voir. N'est-ce pas? C'est pas parce qu'un individu est condamné à mort par la justice que l'on exclut le fait que peut-être il va au paradis ou du moins au purgatoire ou je ne sais quoi. Ça n'a absolument rien à voir. La justice de Dieu n'est pas la justice des hommes. Mais oui, je pense que la peine de mort, c'est absolument essentiel, comme aussi le fait que les citoyens soient le cas échéant exposés au danger de la guerre. C'est-à-dire, ça, c'est central dans la négation de l'idée d'une valeur absolue de l'individu et de sa revendication sans fin de droit. C'est nécessaire pour qu'il comprenne qu'il n'a de droit que de devoir, comme dit Auguste Comte. Et par ailleurs, bon après il y a des raisons juridiques, hein, c'est comme le faisait observer même Jean-Marie Le Pen, hein, par exemple. La suppression de la peine de mort a amené une espèce d'écrasement, de tassement de toute l'échelle des châtiments prévus par la justice, et puis on arrive à la fin à ces espèces de peines ridicules, de quelques années de prison pour des actes extrêmement graves, etc. Bon, voilà. En fait, ce dont on était soucieux, enfin, on en avait discuté pas mal avec Marc Georges notamment, c'est-à-dire c'était au moins symboliquement de montrer qu'on était à certains égards, si on veut, socialiste, mais d'un autre côté, qu'on n'avait aucune espèce de complaisance à l'égard des voyous, des criminels et des délinquants d'aucune sorte, d'ailleurs de haut en bas de la société avec une sévérité plus grande sur les délinquants du haut de la société. Mais voilà, bon, c'était ça notre logique. Je trouve que ce chapitre-là ont un caractère un petit peu plus symbolique que sérieux dans le détail. C'est-à-dire, si on concevait vraiment une société bien faite, peut-être qu'une bonne partie de ces problèmes-là sauterait ou devrait être réarticulée complètement différemment.
Ok, merci. Shaman, tu as une question?
Ah déjà, j'ai une réaction par rapport à ce qui vient d'être dit, notamment sur la peine de mort. Je pense qu'une solution assez intéressante qui avait été trouvée, c'était la solution athénienne, donc de privilégier soit l'exil, soit je parle pas des rouages hein, et compagnie qui étaient et des précipitations qui étaient en cours en Grèce antique. Je parle plutôt de soit la mise en exil, soit bon, en l'occurrence pour le cas de Socrate, boire la ciguë, qui est peut-être un honneur trop grand fait aux criminels selon certains, mais à mon avis on était vraiment dans un bon système où on ne donnait pas la mort, c'est-à-dire que le jugement était simplement un exil, puisque, comme tu le disais, aujourd'hui, l'individu, en fait, n'existe, enfin, l'être n'existe que dans la société dans laquelle il s'inscrit. Alors, je trouve que c'est assez violent, c'est faire violence à l'idée même de l'être, hein, et à, comment dire, à la pureté même de l'être, à sa naissance, qui n'a pas qui n'est pas en lui, je veux dire, intégré à quoi que ce soit, si ce n'est au monde qui l'entoure. Et donc, voilà, donc c'est cette notion d'exil permet justement à l'individu qui n'a pas respecté les règles de devoir s'écarter de cette société obligatoirement. Alors, je parle pas d'un exil évidemment au Club Med, hein, on avait des bagnes qui étaient assez dur et on a encore quelques îles, quelques territoires qui pourraient permettre cette mise en exil forcée, sans possibilité de retour. Et si l'exil n'est pas accepté par le condamné, eh bien à ce moment-là, on le condamne à son propre suicide, qui d'un point de vue là, théologique est presque pire, puisque le salut, si en tout cas il est dans la foi catholique, sera assez difficile à trouver. Mais je pense que c'est assez honnête. Il n'y a pas de bourreau dans cette histoire, et c'est le plus important, puisqu'aujourd'hui on donne des bourreaux, enfin pour les pays qui ont la peine de mort, et je pense que c'est théologiquement et même spirituellement assez rabaissant de se mettre bourreau et pas très respectueux des enseignements religieux, bon, notamment pour les États-Unis, c'est quand même assez limite. Et la question, ça c'était une réflexion, tu pourras donc y réagir si tu l'entends. Et la question en fait portait tout simplement sur l'éducation. C'est-à-dire que quelle vision de l'éducation en France? J'ai reçu le programme du Parti Socialiste chez moi, donc évidemment c'est une catastrophe au niveau de l'éducation, hein, massification de l'université. Par contre, il y a un autre point qui a attiré mon attention, c'est L'école maternelle obligatoire pour les enfants de 3 ans. Alors, dans une perspective d'autorité de l'État, oui, peut-être serait-il bon de laisser à des fonctionnaires, donc à des représentants de l'autorité étatique, le soin de garder nos enfants, oui, obligatoire, de garder nos enfants dès l'âge de 3 ans. Or, c'est aussi les séparer de leurs parents. Donc, dans cette perspective-là, quelle est ta vision de l'éducation? Est-ce qu'il faut faire quelque chose, enfin, déléguer aux fonctionnaires très rapidement l'éducation des enfants? Ou non, et puis ensuite massification de l'université. Bon, j'imagine que tu n'es pas vraiment correct avec cette option-là, mais que penses-tu aussi des universités, des parcours? Et penses-tu que aussi, ça c'est important, que malgré le fait que l'université, en tout cas selon moi, ne doit pas être une entreprise de massification, les grandes écoles ne doivent pas pour autant être, enfin, ne doivent pas pour autant ne pas être réformées. Voilà.
Sur la peine de mort, enfin après, bon, on peut rentrer dans les détails. Moi, je pense que son existence symboliquement est très importante. Je pense que, comme toutes les choses sacrées et terribles, son usage parcimonieux est important, c'est-à-dire en abuser, l'utiliser excessivement ne serait pas justement rendre service à sa majesté terrible. Hein. Donc je pense qu'elle doit être utilisée de façon modérée. Moi j'ai le souvenir quand j'étais enfant, la peine de mort existait encore, qu'elle était appliquée une, deux fois par an peut-être. C'était pas du massacre de masse. On ne peut pas dire que la société liquidait les indésirables par plein conteneur. Enfin, donc, il ne s'agit pas de massacrer les indésirables, il s'agit d'une sorte de cérémonie, comment dire, exprimant les rapports de l'État et de l'individu dans des cas très exceptionnels. Voilà. À titre personnel, je dois dire que j'aurais certainement, en situation, disons, j'aurais moins d'état d'âme à signer moi-même, s'il le fallait, l'ordre de fusiller un ennemi politique en situation révolutionnaire, que je n'en aurais à faire mettre à mort un criminel dont on pourrait soupçonner que c'est un malade mental, etc., etc. Enfin, il y a des gens qui sont infiniment plus coupables au sens moral, certainement que beaucoup de criminels, enfin des gens qui ont sciemment, froidement, enfin, dégradé les conditions d'existence des Français dans leur grand nombre, etc., etc. Donc, comment dire, je suis pour la peine de mort, je ne suis pas pour son application mécanique, massive et systématique, et pourquoi pas en effet trouver d'autres châtiments. Bon, l'histoire du suicide ne me paraît pas très très satisfaisante, enfin bon, qu'importe. Ce sont des détails, je sais bien que c'est un mot un peu chargé, détail, mais enfin, je pense que la question c'est d'affirmer avant tout le principe d'un droit de vie ou de mort de l'État sur ces sujets, mais évidemment dans des cas extrêmement particuliers. Autrement dit, de ne pas poser une sorte de supériorité symbolique du sujet, du moi par rapport à l'État. C'est tout. Bon. Voilà. Pour ta deuxième question sur l'éducation, bon, enfin, moi j'ai quand même été longtemps, je dirais, et je suis encore jusqu'à cet été professeur d'enseignement secondaire. Donc je vois très bien la catastrophe, le dysfonctionnement complètement aberrant de tout l'ensemble. J'ai aussi enseigné pas mal dans le supérieur, donc je vois aussi dans quel état c'est. Le problème, alors, pour ce qui est de l'éducation des enfants, dans le principe, moi je suis assez d'accord avec les conceptions un peu, disons, réactionnaires, contre-révolutionnaires, du moins qui défendent la liberté d'enseignement des familles, etc. Malheureusement, comme si je sors de l'abstraction politique et que je regarde mon expérience de professeur d'enseignement secondaire, je vois bien que les familles sont bien souvent infiniment pires, encore plus, bien plus irresponsables que les fonctionnaires. Enfin, on a quand même aujourd'hui des familles qui défendent leurs enfants quand ils se conduisent de façon complètement débile et autodestructrice, etc., etc. Donc bon, je pense que ce sont des choses qu'on peut. Et donc oui, la question de confier les jeunes enfants à des fonctionnaires, ça, tout ça est discutable. Évidemment, chacun d'entre vous pense, le cas échéant, à ses propres enfants et avec, comment dire, les les idées qu'il peut avoir sur leur éducation, et puis éventuellement un certain niveau culturel lui permettant d'assurer cette éducation, etc., etc. Il faut quand même regarder les choses, il faut quand même après ouvrir les yeux sur la réalité, c'est de ne pas faire des espèces d'idéologie façon PS, en brassant des abstractions égalitaires complètement débiles. Mais il faut aussi quand même prendre en compte le fait qu'on n'a pas beaucoup à faire, dans la plupart des cas, à des familles ayant un projet éducatif intelligent, etc. Donc la destruction des individus est quand même très avancée, et ces individus détruits, déstructurés, désaxés, sont quand même aujourd'hui largement des parents et même des grands-parents. Donc il faut aussi, le cas échéant, que l'État prenne ses responsabilités, même si dans l'idéal, moi je trouve que dans l'idéal, enfin, à terme, si la société pouvait être réorganisée, comme on disait tout à l'heure, l'État devrait se désengager pour ainsi dire totalement de toute fonction éducative. Mais enfin, il faut quand même réfléchir aussi à une fonction, comment dire, transitive ou transitoire, dans laquelle l'État va être, enfin, ne peut que continuer d'assumer cette fonction. Après, oui, je vois bien la remarque de Nouvelle Lune, quand tu vois le niveau de certains fonctionnaires à qui on laisse nos gosses. Évidemment, je dis, j'ai la chance de ne pas avoir d'enfants, ou j'ai la malchance de ne pas avoir d'enfants. Si j'en avais, je ne sais pas ce que j'en ferais, parce qu'effectivement, l'école me terrifie. D'ailleurs, peut-être pas tant la maternelle ou le primaire que le collège, qui me paraît vraiment être le ventre mou du système. Bon, à titre personnel, et d'autant que j'ai eu l'occasion de voir d'autres modes d'enseignement, notamment en Asie, je ne vous cache pas que mon sentiment, c'est que la seule forme d'enseignement qui marche vraiment, c'est celle qui repose sur le, comment dire ça, la volonté d'apprendre de l'individu qui réclame la connaissance qu'éventuellement on lui refuse jusqu'à ce qu'il ait insisté un certain nombre de fois. Évidemment, c'est tout le contraire qu'on voit dans l'éducation nationale, avec effectivement des élèves qui n'ont envie de rien apprendre, qui revendiquent même de plus en plus leur droit de ne pas travailler, d'un côté, et puis de l'autre, des parents d'élèves qui les défendent dans cette posture-là, et puis bien sûr des professeurs qui, quand ils sont pas incompétents ou indifférents, finissent aussi par s'user, parce que la situation est tellement écœurante que tout le monde a le sentiment de faire semblant là-dedans. Je ne vous cache pas que moi je vois dans ma salle des profs, là où je suis encore jusqu'à l'été, tout le monde désire changer de profession, tout le monde en a marre, tout le monde est prêt à faire n'importe quoi, tellement, enfin, c'est pas tellement que le métier soit pénible, hein, il ne faut pas s'exagérer les choses, c'est surtout qu'il y a un sentiment d'inutilité qui est complètement écrasant, enfin, d'inutilité de la fonction.
Alors, on atteint bientôt les 2 heures de conférence, c'est très passionnant. Alors, s'il y a encore d'autres quelques questions, parce qu'il se fait tard, mine de rien, donc allez-y
Ouais,
s'il y a
tout
encore
à fait.
quelques
Moi,
questions.
j'ai encore une petite question pour Sébastien. Donc, sur son livre, un dernier point qu'on n'a pas abordé, c'est au niveau de l'agriculture. Alors là, tu as marqué dans ton livre que c'était donc Nouvelle Lune qui avait aussi participé à ce chapitre. Et vous parlez justement de la culture des OGM. Je voulais savoir, alors vous parlez du Codex Alimentarius, et je voulais que tu m'en expliques un petit peu le concept et qu'est-ce que vous voulez faire justement. Voilà, au niveau des réformes agraires, au niveau de l'Europe, justement. Voilà, donc si tu peux répondre, et si Nouvelle Lune aussi peut répondre, qu'elle n'hésite pas à prendre la parole. Merci.
Eh bien, ce serait mieux qu'elle veuille bien nous en parler, puisque je crois que c'est elle qui avait introduit cette remarque-là. Par ailleurs, moi, tout ce que j'aurais à dire sur l'agriculture, à part ce qui est directement dans le bouquin, c'est la perspective de réforme agraire qui me paraît importante, mais d'un autre point de vue, qui est une perspective d'un certain raisonnable, pas délirer non plus, mais d'un certain retour à la terre de beaucoup, quand même, de nos contemporains et de nos compatriotes. J'ai discuté encore il y a peu avec un universitaire américain, new-yorkais, pour qui il était ridicule, enfin, toutes ces idées de réindustrialisation, de retour à la terre, étaient toutes plus absurdes les unes que les autres, et qu'il n'y avait pas moyen de revenir en arrière économiquement. Mais quand je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'on va faire de 80% de la population française? Ben, il n'avait pas de réponse. Peut-être sa réponse était. Ni Royal Canin, je sais pas, enfin, Voilà, donc il n'y a pas de. Il s'agit quand même aussi d'occuper de façon utile et productive une bonne partie de la population française. Et bon, moi, c'est surtout par ce boulet que j'aurais pris la question. Après, le reste, peut-être le mieux est de laisser la parole si elle veut bien la prendre à notre amie à Nouvelle-Lune.
Oui, bonjour. Enfin, moi, j'ai pas grand-chose à dire sur le Codex Alimentarius parce que c'est vrai que j'avais écrit en grande partie ce petit chapitre, surtout sur l'écologie en fait, que sur l'agriculture, parce que l'agriculture, je connais pas vraiment, c'était plutôt la partie sur l'écologie. Mais j'avoue que je m'étais plongée là-dedans pour la rédaction de ce chapitre parce que Sébastien bloquait un peu, si mes souvenirs sont bons. Mais moi, je ne suis pas spécialiste du sujet, hein, en fin de compte. Ce qui fait qu'un an après, je ne vais pas dire que j'ai oublié, mais je ne me suis pas du tout intéressée de plus près que n'importe quel d'entre vous, j'imagine, sur le sujet, que ce soit des OGM ou du Codex Alimentarius. Sauf que, bien évidemment, toutes ces normes qu'on nous impose. Ce qui pour moi est le plus, disons le plus dommageable et le plus pervers, c'est que finalement, on empêche les gens de devenir autonomes en ayant de petites exploitations ou même de, je ne sais pas, de faire son petit potager, de vendre des choses ou de faire quelques fromages de chèvre comme ça se faisait dans les villages et de le vendre parce qu'on va vous dire que vous n'avez pas une installation aux normes hygiéniques, aux normes je ne sais pas quoi, et finalement on empêche les individus d'être autonomes. Et pour moi, c'est ça la partie la plus dommageable de ces règlements et de ces lois qu'on veut nous imposer. Et c'est ce qui est le plus sournois finalement. C'est peut-être pas ce qu'on voit le plus, mais c'est le plus sournois. C'est que voilà, chacun ne peut plus qu'être un employé de quelque chose d'une structure qui va le dépasser. Il ne peut jamais être maître de son petit destin à lui. Et voilà, mais après, sur le fond de ce qu'il y a dans le Codex Alimentarius et les détails, honnêtement, je ne me souviens plus, quoi. Je ne serais même pas capable de redire une des lois ou un des règlements ou une des directives qu'il y a dedans. Voilà, il y en a certainement même parmi vous qui sont peut-être plus à même de parler de ça.
Merci beaucoup, Anne. En fait, il faut être clair sur le fait que quand on a écrit ce truc qui devait donc être le programme de l'égalité et réconciliation, on a eu comme souci, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'ouvrir une perspective, en fait, de faire un ensemble de positions. Et en même temps, on aurait bien aimé que ces propositions sortent d'égalité et réconciliation. Même en fait, quand on a voulu écrire les chapitres, on a soumis les questions, c'est-à-dire en fait, principalement, ce dont on est parti, comme je le dis, c'est un programme du Front que j'avais annoté de façon, enfin, j'avais sélectionné des passages que j'avais annoté de façon critique, et on a envoyé ça. Et en fait, les retours, les remontées ont souvent été très maigres. Donc, moi qui espérais ne faire enfin, n'être que le rédacteur, le secrétaire presque d'une œuvre collective, j'ai parfois dû bricoler, alors heureusement avec l'aide de quelques-uns comme Anne, Nouvelle-Lune, pour réussir à boucher les trous de ce dont on voulait que ça parle un petit, enfin d'un texte dont on voulait qu'il parle un petit peu de tous les aspects politiques qui nous intéressaient. Comme il n'y avait pas suffisamment de compétences à égalité et réconciliation, je pense qu'il n'y en a toujours pas davantage, évidemment, pour certains des chapitres, on avait du mal. Mais on n'a pas voulu pour autant ne rien mettre. On s'est dit, ce n'est pas grave, c'est une espèce de grille qu'on va proposer à la réflexion, et puis voilà, et puis on fera au prochain congrès un meilleur programme. On présente pour l'instant quelque chose qui, disons, n'est pas ridicule et qui fonctionne comme base, qui fonctionnera comme base de réflexion, et on en fera un mieux après. C'était ça l'idée à la base, c'était pas de faire un livre qui devait rester perpétuellement suspendu hors de l'espace et du temps, sans servir à aucune organisation ni rien. C'est pas le but, n'était pas de faire un livre de philosophie. Ni non plus un livre définitif, je veux dire, mais vraiment un livre dont le but principal était de contribuer au renforcement, à la construction de l'organisation.
Alors, si vous voulez des informations sur le Codex Alimentarius, je vous conseille numéro 37 de mai 2010 du Choc du mois avec un excellent article de Alexandre Rouget, mais que j'ai sous les yeux là, mais bon, je pense que ça nous entraînerait un peu trop loin de lire des extraits, donc peut-être qu'on va aller vers peut-être maintenant les dernières questions, je sais pas. Si certains en ont, allez-y. Puis si c'est pas le cas, je pense qu'on peut clore la conférence en te remerciant et en vous
Ouais,
remerciant
tu
tous.
veux faire peut-être que Sébastien, tu veux faire une petite conclusion? Bon, je te laisse, c'est à 5 minutes. Hein.
Bah, en fait, je pense que l'essentiel a été dit. Enfin, après, on pourrait rentrer davantage. Par exemple, on n'est pas rentré dans les aspects proprement politiques de refaire la France. C'est-à-dire, par exemple, la proposition qui est faite disons, de structure du pouvoir politique au niveau de l'État, c'est un peu compliqué. Je pense que c'est un petit peu original. Ça aurait pu être intéressant. Et justement, ça aurait complété utilement. Mais ce qu'on a dit de toute façon sur le fédéralisme, etc. Mais voilà, bon, moi je pense que en même temps, enfin, la chose vraiment essentielle, c'est au fond ce que je venais de dire à tout autre propos pour compléter la réponse d'Anne, enfin de Nouvelle-Lune, sur l'agriculture, plutôt en expliquant la faiblesse relative de plusieurs chapitres du livre, le fait qu'on les a un peu bricolés. Effectivement, j'ai eu beaucoup de mal sur celui-là, heureusement qu'elle m'a aidé. Voilà, l'idée était que ça n'était qu'une espèce de work in progress, quoi, enfin un document de travail pour une organisation. Et à mon sens, là est tout l'essentiel et là est tout le problème. C'est-à-dire que la question est vraiment celle de l'organisation qui nous est nécessaire, qu'il faut construire. Je ne veux pas critiquer égalité et réconciliation, mais il est tout simplement visible qu'Alain Soral lui a donné une toute autre tournure. Je ne parle pas du contenu de sa pensée, de ses affirmations, mais du moins de l'organisation, enfin, de la nature de l'organisation elle-même. Et donc l'organisation que nous appelions de nos voeux reste complètement à construire. Il n'y a rien qui s'y est substitué. L'échec de Gollnisch à la succession de Jean-Marie Le Pen, dont nous attendions beaucoup parce que nous espérions, enfin plus ou moins, qu'il nous permettrait d'exister en marge de ce parti-là, avec nos propres positions, enfin en marge ou au sein de ce parti-là, avec nos propres positions. Bon, bah, c'est encore une impasse, disons, à cette étape du moins. Et donc, pour moi, voilà, la question reste tout à fait entière et très préoccupante et de plus en plus urgente et de plus en plus difficile, au fur et à mesure que les choses se dégradent. Je ne suis pas certain que la probabilité de réussir à construire une organisation satisfaisante devienne plus grande. Voilà, je ne voudrais pas finir sur une note pessimiste, mais c'est ça tout l'enjeu, c'est ça qu'il faut avoir en tête, parce qu'autrement, pour ce qui est de brasser des idées, on peut en brasser beaucoup, et je pense qu'à la fin, ça ne produit que du désespoir.